Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, Lamborghini Pape. Le Pape, il y a une Lamborghini, ok?
Hein?
Oh, ouais, ça marche. Je mettais ça en combo avec mon grilled cheese au micro.
Conférence devant 4 personnes.
Ok.
4 personnes. Ok.
Oui.
Alors bonjour et bienvenue au show des Trois Flots, une édition spéciale pour la journée de la femme qui avait lieu vendredi dernier. Nous sommes sur les ondes du CJMD 96.9 Lévis. Tous les dimanches soirs de 18h à 20h, en fait, je suis en studio présentement avec deux grandes femmes. Mais avant de les présenter, je vais présenter mes collègues qui sont en studio avec moi, Sandrine et Lily Rose. Ah, puis j'ai oublié de me présenter. En fait, moi, je suis Laurie. Je suis en communication à l'Université Laval, puis je suis également metteuse en ondes normalement. Donc, les filles, je vous laisse la parole.
Alors, je vais commencer. Alors, moi, c'est Sandrine. Moi aussi, je suis en communication à l'Université Laval et moi, mon rôle au show des Trois Flots, c'est que je m'occupe des réseaux sociaux. C'est moi qui ai refait le logo. C'est moi, la fille, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui trouvait l'Instagram lettre, qui l'a dit au gars. C'est moi. C'est moi. Alors, c'est ça. Alors, je m'occupe de tout ce qui est visuel et réseaux sociaux. Alors, je vais laisser ma collègue Lily Rose se présenter.
Donc, moi, je suis Lily Rose.
Ouvre sur le micro aussi.
Le micro n'était pas ouvert.
moi, c'est Lily Rose. Je suis également l'étudiante en communication avec Laurie, Sandrine et les Trois Flots. Moi, pour ma part, là, au niveau du show de radio, je m'occupe, en fait, de la recherche d'invités. Je suis devenue un peu le bras droit administratif de Sam. Alors, on travaille pas mal en collaboration. Alors, c'est pas mal ça, mais je pense que là, on est prêt à cet temps pour nous. C'est l'heure de présenter nos invités. Alors, on est en studio avec Anne-Marie Lortie et sa fille Corinne Crouza. Si vous avez remarqué, là, on est comme les Trois Flots, trois en communication. Donc, on a décidé un peu de prendre cette direction-là pour notre émission spéciale des Trois Flots. Donc, les filles, je vous laisse vous présenter.
Je m'appelle Anne-Marie Lortie. Je suis une Madame Floune. je suis dans le monde des médias. Je suis diplômée, moi, d'une école qui s'appelle Cégep de Jonquière, ATM, depuis 30 ans maintenant. Alors, ça fait 30 ans que j'exerce le métier de communicatrice, journaliste, maintenant animatrice. J'anime l'émission Salut, bonjour, week-end à TVA les fins de semaine et samedi, dimanche. Et je suis très honorée de participer à une belle conversation avec vous autres, les filles, dans le cadre, je pense, on est encore un peu collés sur l'actualité avec la Journée internationale des droits des femmes.
Absolument.
C'est une très belle invitation que j'accepte. Et surtout, c'est la première fois que je partage les ondes aussi longtemps, je pense, avec ma fille Corinne.
Mon tour de me présenter. Alors, moi, je suis la mini-floune de Sylvie à ma gauche. Alors, comme elle, je suis également diplômée du Cégep de Jonquière, de l'École supérieure en technologie des médias, cette fois-ci en journalisme. Moi, ça fait pas aussi longtemps que je suis dans le milieu. Ça va faire un an là, dans les prochaines semaines. Puis, je suis journaliste à TVA Sherbrooke et j'ai la chance aujourd'hui de participer à ce show avec deux de mes amis que je connais depuis un petit bout, puis d'autres que j'apprends à connaître aujourd'hui. Fait que je suis bien contente.
Merci tellement d'être là. Pour de vrai, c'est vraiment un honneur pour nous aussi de vous recevoir.
Merci.
Ben, tout d'abord, là, je pense qu'on aimerait savoir un peu vos parcours un petit peu plus là, en détail. On a su que vous étiez à ATM niveau collégial, mais mettons Eve-Marie, là, si tu nous parles un peu de ton parcours qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre jusqu'à Salut Bonjour Week-end?
Ah, oh, ben c'est un beau chemin. C'est un très beau chemin. Au choix de carrière, au secondaire, à la fin des années 80, 90, je devais choisir quelque chose qui me passionnait. Je savais que je voulais communiquer. C'était pas clair encore ce que je voulais faire. J'hésitais entre jouer la comédie, être comédienne, ou même l'enseignement me tentait. Et puis, il y avait aussi la possibilité de travailler dans les médias, mais je ne savais pas trop. Finalement, c'est l'option que j'aurais choisie, d'aller en arts et technologies des médias à Jonquière. C'était simple aussi. Moi, je suis une fille de Jonquière. J'ai grandi au Saguenay. Et à ce moment-là, je me sentais pas j'avais pas les sous pour aller étudier ailleurs. Donc, ça faisait mon affaire que l'école qui m'intéressait se trouvait pas très loin de la maison. Puis, dès le début du parcours, il y a eu un intérêt marqué pour la radio. La radio était mon métier premier. Je voulais être une animatrice à la radio. Puis, c'est un prof, à un moment donné, qui m'a dit, écoute, moi, je te vois aller dans le cours d'information, salle des nouvelles. Me semble que tu as quelque chose, là. J'ai développé ce côté-là du reportage. J'ai donc gradué. À ce moment-là, c'est plus du tout le même programme qu'il y a à Jonquière, mais moi, j'ai gradué en radio-journalisme. Puis mon premier emploi à la radio a été dans le nord de l'Ontario, à Timmins. J'étais allée loin pour commencer le travail. Faut dire qu'il y avait une peine d'amour en arrière de ça aussi, les filles. Ça aide des fois à vouloir prendre l'air puis aller loin, hein, d'ailleurs. C'est ça. Alors, je suis allée pendant presque 2 ans travailler dans une radio francophone du nord de l'Ontario. Puis j'étais la seule employée de la salle des nouvelles.
Okay.
Je faisais les nouvelles le matin dans l'émission du morning. Mm-hmm. Ensuite, au midi, j'avais mon émission d'affaires publiques. Puis, on enregistrait le bulletin de nouvelles d'après-midi avec aucune allusion à la météo parce que ça change.
Imagine qu'elle est toute seule, ça doit être très, très, très formateur.
C'est formateur parce que si le premier ministre de l'Ontario est en ville, c'est pas personne d'autre qui va aller couvrir la conférence de presse, c'est toi.
Okay.
Et je vous situe dans le temps à peu près à ce moment-là, c'est 1995. Mm-hmm. Donc, c'est le deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. Puis moi, mais je suis pas au Québec, mais je suis dans une communauté francophone hors Québec qui voyait aller ça aussi avec un œil très intéressé. Donc moi, j'ai vécu ces années-là politiques, mais différemment, avec la communauté francophone du nord de l'Ontario. Puis ça a duré, comme je vous dis, presque 2 ans. Il y a eu un retour à Québec. Mon coloc de Jonquière est venu me visiter. Puis il dit, hey, on cherche une fille à la radio à Québec. Viendrais-tu? J'ai dit, oh, certainement. Je me sentais très bien. La peine d'amour était passée.
Oui, c'est ça.
Puis je vous fais un raccourci, mais une fois à la radio à Québec, j'avais une amie qui faisait les arts et spectacles et à la radio et à TVA à Québec. Puis j'ai juste demandé à Isabelle Pagé, je peux-tu te suivre une journée? Comment ça marche la télé? Je ne sais pas comment ça fonctionne. La journée est devenue une semaine d'observation dans la salle de nouvelles à TVA, ici à Québec. Puis après la semaine d'observation, j'ai dit au directeur de la station, « Merci beaucoup de l'accueil, super, j'ai tout compris, j'ai adoré ça. » J'arrive chez nous, il y a un message sur le répondeur qui dit, « Hey, j'ai un problème dans mon horaire pour les vacances. Il y a un trou. Veux-tu faire les remplacements d'été? »
Wow!
Un remplacement qui devait durer 2 semaines. Qui dure maintenant depuis 27 ans.
C'est ça, je te fais l'histoire.
L'information a pris une grande, grande partie de ma carrière. J'ai été journaliste sur le terrain, j'ai été présentatrice de nouvelles et à TVA et à LCN. Sur tous les bulletins, le matin, le midi, j'ai fait les shows de nuit. Et à un moment donné, l'appel de l'animation que j'avais eu dans le temps, tu sais, quand j'étais au cégep et revenu, il y a eu l'opportunité d'aller à Salut Bonjour Week-end. J'ai levé la main, puis ça a fonctionné.
Ah, c'est vraiment
Puis pour être quand même quelqu'un qui écoute Salut Bonjour, on peut voir quand même que ta carrière de journaliste teinte beaucoup sur ton animation. Tu sais, je vois que c'est encore très présent là, au niveau recherche, puis tu sais, en tant qu'animatrice, on voit que les questions sont très méticuleusement choisies, là.
Oui, puis mon intérêt aussi y est pour l'actualité. C'est pas une lourde tâche pour moi que de regarder qu'est-ce qui se passe dans dans le monde. Ça fait partie de mon hygiène de vie le matin. J'adore regarder. J'ai un intérêt pour les médias à l'international. Je fais toujours CNN, BBC dans ma revue de presse, juste pour voir un peu ce qui se passe partout. Puis j'ai un intérêt, évidemment, pour ce qui se passe à la maison. Puis j'ai hâte que Corinne prenne la parole. Puis elle va parler de l'information régionale aussi, à quel point c'est important, ce qui se passe chez nous, puis de bien le rapporter. Alors, ouais, ça teinte. Je pourrais pas, je pense, être une animatrice juste de quiz. Okay. Je sais pas si vous comprenez, ouais. Les filles. Mm-hmm. J'ai besoin que le média puis l'émission que j'anime me permette de parler aussi d'actualité. Parce ouais. que ça fait partie de ma personnalité. J'ai longtemps dit que j'étais comme la céréale mini-wheat, là, un côté givré, un côté... Je suis tannée de le dire. Mais c'est ça. L'information, mais aussi le divertissement puis la passion pour d'autres histoires, il faut que ça fasse partie de mon métier. Puis là, avec Salut Bonjour, week-end, puis à l'automne prochain, Salut Bonjour, deux semaines, je vais m'épanouir encore avec ces deux.
Félicitations en passant pour ça.
Oui, quand même, hein? Ouais, on en reparlera tantôt de ça.
Toi, Corinne, ton parcours, mettons-le, qu'est-ce qui t'a amené à aller dans les médias? Est-ce que c'est ta mère? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est sûr que de grandir dans le milieu un peu par ma mère. Tu sais, moi, je le dis souvent qu'il y en a qui ont grandi, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, c'était la mère. Il y en a qui ont grandi dans la forêt. Ben, moi, j'ai grandi dans le studio de Salut Bonjour. Tu sais, je me cachais dans Wet and Gino, puis tout, Yannick. Moi, j'étais derrière ça, puis je dessinais. Fait que rapidement, j'ai pris un goût à ça, puis j'ai été chanceuse de voir que c'était accessible parce que ben, ma mère le faisait, ses collègues le faisaient, puis ils étaient quand même capables d'avoir une vie à la maison, avec des amis, tout ça. Puis j'ai toujours aimé parler. Moi, le mange-patate se faisait aller sans cesse, tout le temps, tout le temps. Ah oui, là, je jacassais. Ça jacassait pas mal. Puis le parcours en art dramatique au secondaire aussi m'a donné un petit peu le
comédie musicale.
Ah, alors Saint-Jean-Eux. Circa 2021, on était...
Pas nos meilleures années, on va se le
non.
dire.
Non, c'était
flagrant. Mais j'allais voir vos shows, moi, les filles.
Un quart de mars, ça trouve ça beau,
si
hein?
Vous étiez très bonnes, là. C'était beau. Grease va rester marqué dans mes mémoires.
Oh, nous aussi, je pense.
Oui. Mais Mamma Mia, c'est votre meilleur.
Ah oui. Ouais. Le pic de notre carrière.
Mais c'est ça, fait que ça a comme donné une espèce d'avant-goût de l'envie de partir au Saguenay. Puis, encore une fois, j'avais tellement des parents qui m'encourageaient là-dedans, donc j'ai quitté pour Jonquière à l'âge de 17 ans. J'ai choisi directement le journalisme. Puis moi aussi, il y a un enseignant qui m'a dit, toi, faut que tu parles. L'écriture, c'est correct. La radio aussi, mais toi, il faut qu'on te voit puis qu'on te parle, puis qu'on sente dans tes yeux l'histoire que tu racontes. Donc, j'ai fait mes 3 ans avec la pandémie, tout ça, mais ça s'est super bien passé. Puis, en avril 2023, j'ai commencé mon stage à TVA Sherbrooke, mm-hmm. où encore aujourd'hui, je travaille, puis je fais toutes sortes de couvertures sur le terrain. Donc, ouais, j'aime bien ça.
Wow, vraiment impressionnant. Mm-hmm. Je suis tellement fière de toi.
Wow, merci.
Puis, mettons une petite question, je pense que ça applique aux deux. C'est sur un point de vue là, personnel. Comment, mettons, les horaires inhabituels, comment la vie de famille, ça se passe quand on a un métier aussi inhabituel?
Oh! Ben, il faut comprendre que j'ai accouché de Corinne en 2003, en février 2003, et j'ai commencé à Salut Bonjour au mois d'août 2003. Mm. Donc, Corinne ne m'a jamais connue autrement dans un autre cadre de travail que de travailler la nuit. Puis, mais j'ai toujours réussi à très bien faire les deux. Corinne ne voyait pas sa mère le matin. Ça s'est compliqué quand je suis tombée monoparentale, par exemple. Là, j'ai dû demander de l'aide des gardiennes qui venaient à la maison, des gardiennes de nuit. Puis, jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est ça. Ben moi, ça m'a... L'opportunité d'aller travailler les fins de semaine faisait que ça arrivait là après presque 9 ans de travail de nuit, de pas être là le matin pour voir Corinne partir à l'école. J'ai commencé Salut Bonjour Week-end, t'étais rendue en 4e année. Donc, tu sais, ça me manquait. En même temps, c'est jamais parfait, là. Le travail, on peut jamais tout gagner. Mm-hmm. Je m'épanouis vraiment beaucoup dans mon travail. Je m'épanouissais beaucoup, avec un horaire atypique. Et j'avais un entourage, un village qui m'aidait à soutenir tout ça. À soutenir Corinne, mais bon cœur de mère à un moment donné. Puis aussi, j'étais essoufflée. Alors, d'aller travailler les fins de semaine, j'avais un horaire plus réduit. Ça me permettait d'être à la maison pour voir ma fille déjeuner. Mais en même temps, les fins de semaine, c'est là qu'on joue dehors avec nos enfants. C'est là mm-hmm. qu'on fait du ski avec nos enfants. C'est là que nos enfants ont des compétitions de nage synchronisée. Puis, ben, on en manque un peu. Mais ça... Poser la question à n'importe quel parent qui a un horaire atypique, qui travaille dans le réseau de la santé, qui a des chiffres de nuit, qui est policier, mm-hmm. qui fait la patrouille de nuit, je veux dire, on ne peut pas tout faire. Mais ça a été ça un peu, ça a teinté notre, c'est sûr que ça a teinté notre vie. Corinne a souvent entendu sa mère dire, excuse-moi, je suis brûlée, je suis fatiguée. Oui, quand même. Mais en même temps, elle a vu sa mère revenir du travail avec des étoiles dans les yeux, puis dit, vous avez pas idée qui j'ai rencontré aujourd'hui, qui était sur le plateau, quel genre de nouvelles on a. Tu sais, elle a vu ça aussi. Puis je pense que ça a probablement nourri une certaine passion chez elle dans l'envie de communiquer elle aussi.
Absolument.
Puis d'un point de vue enfant, c'est comment votre mère?
Oui, quand on est, comme ma mère l'a dit, moi, j'ai jamais connu ma mère dans un autre cadre que ma mère travaille la nuit. Fait que la nuit, j'aurais pas.
C'est quand même louche, là.
Que fait-elle la nuit?
Que
fait-elle? Où est-elle?
De précision.
Ce que je voulais dire, c'est bien sûr, vous avez compris, mais le réveil matin sonne quand même à 3h, 3h30.
Non, là. 2h50.
Non, c'est super. Donc, c'est ça, je ne l'ai pas connue dans un autre, dans un autre modèle, mais ça ne m'a jamais dérangée, justement parce que je n'ai pas connu l'inverse. On ne me l'a pas retiré, on ne me l'a pas enlevé, ma mère, le matin, dans le sens que je n'ai jamais grandi autrement. Mais c'est sûr que des fois, il y a le point de vue extérieur aussi. Il y a déjà eu des gens qui ont entendu des commentaires de « Ben là, pourquoi avoir un enfant si tu n'es pas là pour t'occuper de lui ou elle le matin? » Tu sais, c'est sûr, mais de mon point de vue, au contraire, ça m'a prouvé, comme j'ai dit tantôt, que ben, t'es capable de jongler entre les deux. Puis oui, ça a pris des gardiennes. Oui, ça a pris des cousines qui sont venues me garder la fin de semaine. Mais au final, je pense que j'étais un enfant relativement
normal.
Oui, j'ai bien tourné. Je n'ai pas travaillé la nuit, moi non plus. Là, c'est dans le sens, j'ai pas mal viré. Donc, ça a été formateur, puis j'ai trouvé ça beau à voir. Puis je suis contente que maintenant que je suis rendue plus vieille, ça ne l'arrête pas plus nécessairement d'avoir un enfant, puis que là, elle peut retourner à Montréal, faire un autre mandat qui est très intéressant, puis que moi, ben, de mon côté, je fais mes affaires, puis elle fait les siennes. Donc, au final, c'est une belle expérience pour les deux. Il n'y a rien de traumatisant là-dedans.
Ah oh, bon, ben c'est pas longtemps.
Oh oui, ça me fait du bien. Non, ça.
Le cœur de Marie rassuré.
Mais tu sais, j'étais pas là pour les déjeuners, mais j'ai pas manqué ben de petits spectacles d'école puis de rencontres.
Je me souviens de voir dans l'auditorium de Saint-Jean-Eudes.
Ah, j'étais là. Oui, tout le temps.
Puis, tu sais, quand même, pour vous connaître assez bien, tu sais, je vois que c'est vraiment une très, très belle relation de complicité. Qu'est-ce qui a formé cette complicité-là?
Ah, oh, tu me donnes la parole.
Oui, vas-y.
Je me suis toujours définie, d'abord et avant tout, comme la mère de Corinne. C'est ma plus belle affaire, c'est ça. J'en ai rien qu'une. J'ai juste un enfant, c'est elle, que je souhaitais profondément et ardemment. Et quand Corinne est née, je vous la décris physiquement. C'était un beau bébé, mais elle avait des très, très grands yeux. Vraiment des grands, grands yeux. Puis on s'est regardé, puis la promesse que je lui ai faite, c'était « Je vais essayer de t'en mettre plein la vue, tu sais. » Mais rapidement, ça a été l'inverse, c'est elle qui m'en a mis plein la vue. On a aussi, à cause d'une séparation, on a été beaucoup les deux ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, son père et moi, on s'est séparés, elle allait avoir 4 ans. Puis on a passé bon bout de vie juste toutes les deux. Toujours en me disant, c'est pas ma coloc, c'est pas ma chum, c'est ma fille. Des colocs, des chums de filles, j'en ai plusieurs. Corinne, c'est ma fille, j'en ai qu'une. Même une fois, elle avait commencé à m'appeler Ève-Marie, elle m'appelait plus maman. Non.
Ah non, mais ma mère aussi, on dirait dernièrement, je l'appelle plus, elle s'appelle Valérie. Ouais. Et à chaque fois, je lui dis Valérie, elle dit, toi, c'est maman.
Ouais.
C'est net et clair, là, c'est maman.
Mais il faut comprendre une chose. En tout cas, dans notre situation, nous deux, il n'y a qu'une personne sur la Terre qui peut m'appeler maman. Mm-hmm. C'est elle.
Ouais.
Il y en a juste une. On va le prendre.
On va le prendre, mais je comprends tellement.
Puis c'est sûr, on a établi une belle relation de confiance. C'est ça. Je pense que c'est peut-être ça le secret.
Très bien résumé.
Tu rajouterais quoi, toi?
Moi, je rajouterais que autant on se ressemble sur plusieurs plans, autant je trouve qu'on se complète par nos différences, par nos personnalités qui s'assemblent sur différents points. Puis le fait qu'on ait des passions qui sont similaires, la communication, tu sais, ma mère puis moi, nos plaisirs, c'est d'écouter des séries ensemble, les Oscars, des affaires comme ça, qu'on peut se rejoindre les deux. On a un sens de l'humour qui se rejoint. Puis j'ai l'impression qu'en vieillissant, ça fait juste se solidifier ce lien-là par justement ces points en commun-là, mais également nos deux points de vue qui, des fois, sur une situation, peuvent rajouter quelque chose de beau, puis les deux ensemble, on est capable de se faire du fun pas mal.
Ah oui, mais nous deux, notre moment fort, je pense, c'est en voiture.
Ouais.
Des road trips, on a tellement fait souvent Montréal-Québec en auto, et je me souviendrai toujours de la question. Je pense que la question est arrivée à peu près à Victoriaville. Corinne, elle me dit, C'est quoi la différence entre les républicains puis les démocrates aux États-Unis?
Le road trip est pas assez long. Là.
Pour que tu me poses cette question-là, c'est qu'on n'habitait pas encore à Québec, donc t'es en moins de... C'est secondaire 1, je pense. Ouais. J'ai fini de répondre, on était rendu sur le pont Pierre-Laporte. mais c'est ça. Puis il y a le partage de la musique, beaucoup. Il y a eu une époque, quand Corinne était petite, c'était moi qui imposais la musique dans l'auto. Puis rapidement, les choses ont changé. Corinne, c'est ma pusher de tune. Ah, j'aime ses choix musicaux, ses goûts musicaux. Elle m'amène des belles suggestions. J'adore. Il y a des affaires que j'aime moins. Mais tu sais, Post Malone... C'est elle qui me l'a fait connaître. Puis
mettons, dans un road trip, est-ce qu'on est plus le même genre de playlist tout le temps ou on est à la découverte de nouvelles chansons?
Ah, oh, on est à la découverte!
Mais on a des classiques!
On a des classiques!
On peut-tu en savoir quelques-uns?
Oui, ben absolument.
Vas-y, DJ.
Oui, DJ, ben en gros, Romeo Elvis.
Oh, mon Dieu!
Quand même, rappeur belge, là, on est loin du
classique.
On l'aime
fort.
Tu sais, maman, je vous la décris, c'est pas une madame que tu regardes en disant « Ah oui, elle, Romeo Elvis! »
Est-ce qu'on peut juste faire une petite... petite pause pour parler du spectacle de Romeo Elvis qu'on est allé voir ensemble au Festival d'été de Québec.
Frisson,
autant de passion, comment c'était bon, mais je dirais aussi de terreur. Moi, je croyais y laisser ma vie.
Oui, on a failli être sur la page couverture du Journal de Québec.
Absolument, parce que pour ceux là, qui connaissent peut-être pas les shows rap du Festival d'été, ça brasse pas mal, puis mettons qu'on était pas mal en avant. Puis là, un moment donné, Romeo Elvis décide de dire « Ok, tout le monde, on fait des pogos. » Moi, Corinne, on se regarde, on est crampés, mais qu'est-ce que c'est ça, des pogos? Et là, on voit la foule se séparer et on se dit « Ça y est, c'est ici qu'on y laisserait notre vie. »
On a des photos qui soulignent cet événement et c'est pas beau.
Je me souviens prendre le chandail d'un gars et dire « Tu me lâches pas parce que sinon je tombe et je me fais piétiner. » En vrai, j'ai tellement eu peur, la gang, ça avait juste pas de sens.
Tout ça grâce à Romeo Elvis.
Ouais. Exactement.
Donc, c'est quoi des pogos?
C'est des mosh pits.
Ah, c'est un mosh pit!
Ben oui.
Ah bon, OK.
Oui, oui.
Ouf!
Un gros mosh pit.
Vraiment.
Des pogos. Ouais.
À ce jour.
On en reparle pas mal toutes les semaines.
C'est correct.
Un événement traumatisant pour Lily Rose, mais, qu'on peut comprendre.
Mais bref, en tout cas, fini la pause Romeo Elvis, je te laisse continuer.
Oui, ben c'est ça. Fait qu'il y a du rap français, des classiques de comédie musicale que je lui impose un peu, mais qu'au final, je sens que des fois, je te convainc un peu.
Oui, je vais pas vers Hamilton aussi facilement que toi.
Non.
Par contre, tout ce qui est le Roi Lion...
Ah ben oui.
Tout ce qui est Roi Lion, ça peut jouer quatre fois.
Est-ce que la passion comédie musicale a été transmise par Corinne ou c'est quelque chose que tu avais déjà?
Ben, chez nous, ça écoutait beaucoup les vieilles comédies musicales. Okay. Chez nous, moi, j'ai des références avec Les Misérables. Ouais. Une comédie musicale que vous connaissez peut-être pas, mais c'était Serge Lama, c'est Napoléon, c'est l'histoire de Napoléon. C'est des trames sonores qui ont bercé aussi mon enfance, qu'on écoutait beaucoup à la maison. Mais Corinne, elle amène ça à un autre niveau, là, ben, parce qu'elle a évolué dans ce programme-là.
Puis, par curiosité, là, la comédie musicale, est-ce que t'es allée là à Saint-Jean-Eudes un peu par « Oh, j'ai rien d'autre à aller comme programme » ou t'étais vraiment passionnée?
Hey, pour vrai, non, c'est qu'on faisait l'espèce de catalogue des écoles de Québec, puis moi, j'arrivais du programme international, PEI.
Oui.
J'aimais pas ça. J'ai détesté ça.
Mais parce que j'ai été en PEI, mais no hard feeling. Si c'était à refaire, je prendrais comédie musicale aussi.
Mais c'est quoi PEI?
C'est programme d'études internationales. En fait, c'est un programme, comment on me l'avait vendu au primaire, c'est justement pour découvrir le monde, plus de voyages, plus... Okay. Mais en fait, c'était beaucoup d'enrichi. Fait que français, français enrichi, espagnol. Mais finalement, ça m'a apporté super belle expérience. Moi, j'ai fait un échange au Mexique grâce à ce programme-là de 2 mois. Fait tu sais, il y a eu beaucoup de plus, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour un enfant du secondaire, parfois. J'ai l'impression que ça aurait été cool d'être juste un enfant à ce moment-là, puis découvrir par moi-même. Mais ça m'a apporté tellement belles choses, mais en même temps, rendu au cégep, j'avais pas tant plus appris de choses que les autres, mettons. Mm-hmm. Mais comédie musicale, par contre, je l'entends. Puis mettons, là, je viens d'apprendre qu'on a une passion à Hamilton en commun, qu'on s'est jamais parlé.
Ah!
Mais je tripe sur les comédies musicales, puis j'ai vu des moments avec Lily Rose et Corinne, dernièrement dans un chalet notamment, où que j'ai pu voir les chorégraphies qui se souviennent encore de leur,
mais
de leur
vrai, comédie musicale. Mais la comédie musicale, c'est une secte. Une fois que tu passes par là, tu peux plus t'en sortir.
Non, c'est ça. C'est « once you're in, you're in ».
Oui, les chorégraphies sont imprégnées à jamais.
À jamais. Il y a un petit trauma qui est mêlé à ça. Ça fait partie de nous.
Absolument. Je l'assume. Je l'ai dit à la radio devant les auditeurs. Je l'assume, ce côté-là de moi.
Absolument.
Vive la comédie musicale.
Il est là. Il faut le prendre. Mais c'est ça. Fait que dans la voiture, c'est... c'était un mix de tout ça. Puis là, quand j'étais... J'aimais déjà ça quand même au début secondaire.
Tu faisais de la chorale.
Oui, c'est ça. Okay.
On va nommer les choses. Là, c'est ça. On dit que faisais de la chorale.
Elle me met en dessous de l'autobus. Alors, chanter dans l'église, ça a été fait à plusieurs reprises, malheureusement. Mais c'est une belle expérience. Oh, encore non, une fois, oui. On l'accueille, c'est fait.
On l'accueille. Mais c'est ça.
On l'assume. C'est fait. Puis, donc, oui, j'ai un peu pris la comédie musicale de Saint-Laurent parce que c'était là, mais au final, à refaire, je prends le même programme. Je refais le même choix, puis c'était vraiment un bon choix au final.
Absolument. Ouais. Puis je trouve qu'on était confrontés à des situations que c'était tellement gênant, mais qu'il faut juste l'assumer pour de vrai. Tu sais, j'ai l'exemple, à un moment donné, moi puis Corinne, on devait faire une évaluation. Okay? Il fallait qu'on monte une genre de pièce de théâtre, mais avec les chansons de ABBA. Fait que c'est comme si on recréait notre propre Mamma Mia, dans le fond.
Okay, OK.
Un scénario original.
On a environ 15-16 ans, à ce moment-là. OK, okay ouais. Le sommet de la confiance en soi, il va atteindre.
Ouais, non.
Mais en même temps, on se croit vraiment comme de shit.
Oui,
là.
On est des reines. Okay.
Nous, on gère la place, tu comprends-tu? Fait que là, on arrive tout qu'un scénario. Puis pour vrai, on est super fiers de ce qu'on s'apprête à présenter. Puis ça a comme à donner que l'année qu'on a fait de Mamma Mia, Dancing Queen, la chanson, a été retirée de la pièce qu'on allait présenter, puis ça nous a vraiment affecté. On était comme, voyons, pourquoi on a enlevé un si grand classique? Puis on est allé voir notre professeur, puis il nous avait dit, c'est trop un gros morceau pour faire à des jeunes secondaires, parce que ça peut vraiment virer malaisant rapidement.
Mm-hmm.
Puis là, à ce moment-là, on est comme, impossible, c'est sûr que c'est bon. Fait que là, dans cette évaluation-là, on décide de la mettre, OK? Et là, je nous revois starter Dancing Queen devant les 15 personnes de l'auditorium. Mmh. Et à ce jour, je crois pas avoir vécu un moment aussi malaisant toute ma vie. On danse, on chante, semi-assumé. Tout le monde nous regarde les bras croisés. On se regarde sur le côté et on se dit, honnêtement, je crois que c'est le moment de quitter la scène.
Puis à ce jour, ce moment-là, mettons qu'on le met sur un barème d'humiliation, on compare à ça. Donc, alors, okay. Ça ne peut pas être pire que Dancing Queen.
OK, là, on est mots d'encouragement maintenant.
Et ce n'est même
là.
Pas des blagues qu'on fait ça pour de vrai. C'est notre Roman Empire, on s'en parle à toutes les
semaines. Ah, mais je comprends. Non, mais on dirait que vous m'en parlez puis je vis le malaise avec vous. On dirait que je suis comme un peu avec vous.
Seulement, c'était une pièce de théâtre, on chantait, pas de micro, sur de la capella, on avait des costumes, là. À grands coups de boa puis de robe de paillettes.
Non.
Puis il y a cette chanson-là et la chanson-ci, Chiquitita.
Oh non, non, de...
Non,
de ABBA aussi.
Oui, de ABBA. Ah, hey, dans Mamma Mia, la scène super touchante qui console leur amie. On a décidé de faire ça.
Oh my God.
Mais encore une fois, humiliant, là.
Avec une gestion d'accessoires que j'étais aucunement maîtrisée.
Mais c'était-tu genre l'évaluation finale? C'était quoi? C'était...
Genre de mi-session.
OK.
Avant, le show est en train d'être construit, mais en parallèle, on fait ce genre.
OK.
Parce qu'habituellement, secondaire 4, c'est l'année de création.
Ouais.
Mais on s'est un peu révolté. On a décidé, fuck it, on fait pas de la création. Nous, on veut Mamma Mia. On l'a eu, mais on est ôté. Puis on était obligé de faire de la création quand même.
Ouais,
ça
non.
a vraiment chier. Okay. C'est épouvantable.
Ça servirait contre nous, finalement. On
le karma. Le karma était le vrai.
Parce que le prof vous l'avait dit, si c'est l'affaire. Est-ce qu'à la fin, il vous l'a dit, genre, ah, je vous l'avais dit, vous auriez.
Non, OK. Je pense qu'il riait un peu dans sa barre.
Ouais.
Au final, ce professeur-là, on a vraiment créé un bon lien avec lui. Puis il nous aimait beaucoup, je crois, Lily et moi. Mais je le revois assis sur son siège avec les mains sur le ventre. Et dans sa tête, il devait se dire, c'est pas que je vous l'avais dit, les filles, mais c'était un petit peu ça. Là. Il y avait un prélude que, malheureusement, ça allait virer comme ça. Fait que c'était un beau moment.
Hey, mais bref, sur cette belle anecdote de comédie musicale, on va prendre notre première petite pause publicitaire. Et on se revoit après la pause pour... d'autres belles conversations avec des femmes merveilleuses.
Vous écoutez le show des trois flots.
Québec!
Vous écoutez le show des trois flots.
De retour au show des trois flounes sur les ondes de CJM. Au show des trois flounes. Donc, il est 6h32 et nous sommes en compagnie de Eve-Marie et de Corinne. Bon, on va y aller direct dans le sujet. On aimerait ça savoir comment on sent maintenant qu'on est devenu, à partir de l'automne, la nouvelle animatrice de Salut, bonjour.
Comment je me sens? La question, si vous l'avez pas saisie, parce que je pense qu'il y a un petit peu des problèmes de micro, Lily Rose me demande, Eve-Marie, comment on se sent? D'avoir obtenu le poste d'animatrice de l'émission Salut, bonjour, la semaine, à partir de l'automne prochain. C'est une grande joie, une grande fierté. c'est un objectif de carrière. J'ai été dans cette émission-là, moi, du lundi au vendredi, comme présentatrice de nouvelles, aux côtés de très grands animateurs qui sont devenus rester des amis comme Guy Mondegrain, Benoît Gagnon, Gino Chouinard. Après ça, moi, je suis devenue une animatrice à Salut Bonjour Week-end. Puis là, je retourne animer du lundi au vendredi. C'était quand Gino a dit qu'il s'en allait, j'ai vu qu'il y avait une opportunité. Si Gino avait continué à animer encore pendant 10 ans, 15 ans, j'aurais, moi, continué à évoluer sur ma plateforme à moi. Puis c'était correct. C'est un très bon show, un très beau show, Salut Bonjour Week-end. Mais là, quand Gino dit « Moi, je m'en vais », ben là, j'ai parlé à ma famille, j'ai parlé à mon monde, j'ai dit « Moi, c'est quelque chose, c'est un défi que je voudrais relever. » Parce que c'est un défi. C'est tout, ça prend une discipline, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire ça. Tantôt, Corinne en a parlé. Je suis dans un moment aussi de maternité où c'est possible pour moi de faire ça. Là. J'ai plus besoin de revenir à la maison, m'occuper ou d'être là pour faire des lunchs. Là,
non, c'est ça. Être autonome.
Oui, mais même plus ça. À la maison.
Non, mais c'est ça. Je rentre à Sherbrooke.
Mais c'est ça, c'est autre chose. C'est vraiment le sentiment de fierté qui m'habite. Puis très contente que TVA m'ait choisi. Parce que je sais qu'il y avait d'autres candidatures. Je ne sais pas nécessairement qui, mais en tout cas, il y avait d'autres candidatures. Mais ils m'ont choisi. Je suis bien contente.
Ah, c'est tellement... Félicitations.
Oui, vraiment. Félicitations. Oui.
Est-ce que je peux vous poser des questions?
Mais oui, mais oui.
Parce que c'est le fun, ce débat, cette conversation intergénération. Comment vous voyez ça qu'une femme devienne une animatrice de semaine? Est-ce que c'est... Oh mon Dieu! Incroyable ou c'est juste normal?
Mais moi, moi, c'est quand j'ai su que... c'était la première. Moi, c'est ça qui m'a... On dirait que je concevais même pas que c'était la première. Dans ma tête, il y en avait déjà eu.
Ah.
On dirait qu'on est tellement rendu qu'on voit des modèles féminins souvent,
ouais,
qu'on n'a pas conscience, je pense, mais peut-être que je parle juste pour moi, qu'il y a beaucoup de premières puis de nouveautés encore à ce jour. Donc, justement, pourquoi que je trouve que la Journée internationale des droits de la femme est encore d'actualité puis est encore super importante, c'est qu'il y a encore beaucoup de nouveautés. Oui, on est en 2024, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont nouveaux à ce côté-là. Fait que moi, ça a été ça, ma première réaction. C'était « Ah ouais, c'est la première!
Ouais, » ouais.
Mais première, c'est ça. Félicitations encore une fois. Puis moi, je trouve ça super. Là. Je pense que ça aurait dû être fait plus tôt. Peut-être que ça l'avait juste pas donné.
Non, mais ça ne donnait pas. Je veux dire, l'équipe était complète.
C'est
là,
juste
avec
ça
un
donné.
Animateur formidable. Ça ne donnait pas.
Non, mais
là, il y a une opportunité, puis c'est ce qui se passe.
Puis tant mieux, là. Ouais. Puis... C'est pas mal ça.
Ouais. En fait, je pense que pour ma part, c'est de... Tu sais, je crois que dans le milieu des médias, quand même, il y a quand même une très bonne présence féminine. Fait qu'on dirait que c'est comme... Ça m'est comme pas vraiment venu à l'esprit que c'était pas encore arrivé,
ouais,
comme Sandrine a dit. Mais de le voir d'un point de vue extérieur, puis aussi de côtoyer la famille, puis de voir ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, super inspirant. Surtout, puis, tu sais, je me mets à la place de Corinne, puis tu vois ma mère atteindre ce but-là, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment inspirant, là.
Absolument. Je suis un peu dans le même optique que vous, là.
Bien, c'est le fun parce que moi, quand j'ai commencé dans le métier il y a 30 ans, on disait encore qu'à 50 ans, une femme à la télé, ses semaines de travail étaient comptées. J'ai évolué médiatiquement en me faisant dire ça.
Ouais.
Que, c'est dur l'image. Veux pas, moi, la télévision, c'est de l'image.
Ouais.
Et y avait eu des... C'est pas encore complètement réglé, ce dossier-là, là, tu sais. Mais moi, je suis contente parce que cette nomination-là arrive à mes 50 ans. Donc, ce que moi, on m'avait dit qui était peut-être pas possible, c'est une barrière qui a tombé. Là, j'arrive, puis on me confie ce beau mandat-là avec beaucoup de confiance. Puis là, vous me dites que, tu sais, c'est vrai que c'est une première. Mais rendu à votre tour, il y aura des acquis, il y aura des barrières qui seront tombées. Je trouve ça beau d'entendre ça.
Puis c'est inspirant aussi. En fait, là, justement, on dit que t'es la première femme, mais en fait, plus que ça va aller, puis plus que ça va être normal, il n'y aura plus nécessairement de première. Ça va paraître comme si c'était n'importe qui. Ben, c'est ça, ça va être juste la prochaine, la personne qui va progresser aussi. Puis, tu sais, c'est un peu ça, cette optique-là qu'il faut qu'on apporte à long terme. Là.
Puis, mettons, pour être les deux dans les médias traditionnels, comment vous voyez ça un peu, là, l'évolution de tout ça, les changements, tout ce qui se passe au niveau des réseaux? Comment vous sentez par rapport à tout ça?
Je peux peut-être y aller en premier vu que avec les annonces récentes, ça brosse, là, c'est le cas de le dire, pour rappeler les coupures qu'il y a eu à l'automne dernier. C'est sûr que c'est inquiétant.
si on réalise que c'est vers là que notre information, surtout régionale, s'en va, ça fait peur un peu de regarder ça puis de se dire que si on continue comme ça, malheureusement, la nouvelle va changer, la nouvelle sera moins accessible, la nouvelle sera plus aussi priorisée qu'avant. Fait, mais dans, comme dans toutes les situations, il faut essayer de voir le verre à moitié plein. Il faut mm-hmm. se dire qu'avec le temps qui nous reste, faut en faire le plus possible. Puis, comme ma mère l'a dit tantôt, moi, l'information régionale, l'information locale, c'est ce que je faisais à Jonquière, c'est ce que je fais à Sherbrooke, c'est ce que je fais des fois à Trois-Rivières. De raconter les histoires des gens, de leur donner une plateforme, de leur donner une voix qu'à chaque soir, ils vont écouter, c'est vraiment important. Puis, on le réalise pas jusqu'à ce qu'on l'enlève. Fait que, comme je disais, c'est de voir où est-ce que ça va aller. Faut continuer d'ici ce temps-là, il faut continuer de faire des pas vers l'avant, donc d'accueillir une femme pour la première fois dans une des émissions les plus écoutées au Québec. C'est de continuer de pousser pour que l'information soit intéressante, qu'elle soit attirante, mais ça brosse. Puis d'ici là, il faut s'accrocher parce que malheureusement, on n'a pas le choix en tant que démocratie. On a besoin des médias, puis on y pense pas, mais c'est vraiment plus important que ça a l'air.
J'ai l'impression que les médias sont beaucoup pris pour acquis, surtout... Dans notre génération, en tant que jeune étudiante en communication, on dirait que j'ai vraiment plus vu les enjeux cette année. Oui. Dans les dernières années, on dirait que c'était pas que c'était pas important, mais je comprenais pas l'importance justement de l'information.
Parce qu'on a accès. T'sais, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose qu'on peut avoir à n'importe quel moment de la journée.
Ouais, mais là, tu l'as moins avec Facebook.
C'est ça, exactement.
C'est là ça te force à fouiller, puis à regarder sur les sites officiels. Puis...
Mais c'est ça, c'est un peu ça aussi qui nous fait prendre conscience que si c'est là, c'est parce qu'il y a des gens derrière ça, puis si eux sont pas là, ben il n'y en aura pas.
Exactement. Puis pour être des étudiants en communication, j'ai trouvé ça dramatique, voir les coupures de postes. Ça nous a shaké autant parce qu'on était comme nous, on étudie là-dedans, il va-tu avoir une place pour nous à ce moment-là? Puis je pense que c'est vraiment de se réinventer dans ce milieu-là. Puis mettons, étant établi depuis plusieurs années dans un domaine comme ça, c'est comment on la voit l'évolution des médias? Qu'est-ce qu'on pense que ça va être plus tard?
Ben moi, mes repères sont complètement bousculés. Alors, je suis d'une génération où y avait le bulletin de nouvelles juste à 18 heures. À la télévision. Après ça, est arrivé les chaînes d'information continue. Ça a donné de la nouvelle tout le temps, mais encore une fois, à la télévision. Quand j'ai commencé dans le métier, moi, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. J'ai déjà suivi un atelier sur Internet. J'avais levé la main et j'avais dit, mais à quoi ça va servir? Pour vous dire comment ça change très, très rapidement. Il y a une chose qui ne change pas. C'est le besoin d'un citoyen d'être informé. Maintenant, comment on va redéfinir cette façon de faire-là? Je suis bien consciente que ici, là, avec cette belle gang de jeunes femmes dans la vingtaine, qui n'écoutent peut-être pas la télé traditionnelle comme moi je l'écoute, puis comme mes parents l'ont écouté, on vit un bouleversement. Il faut que le besoin de s'informer, par exemple, ne se perde jamais. La source crédible, c'est important. C'est un message que je martèle beaucoup. Moi, j'évolue à TVA. Radio-Canada fait un excellent travail. Nouveau, ils sont présents aussi. Il y a des chaînes de nouvelles crédibles, solides, installées. On a un devoir de citoyen de suivre l'information, choisir nos journaux, choisir nos médias, aller les rejoindre sur leur plateforme. Puis nous, les médias traditionnels, bien là, on va évoluer, nous autres aussi. Là. On a un travail à faire. Si c'est sur TikTok que ça se passe, mais on va juste s'occuper d'avoir notre place, nous aussi, pour envoyer le message qui est fouillé, documenté, solide. Mais tu sais, comme je vous dis, mes repères sont complètement mêlés, là. Vraiment. Mais je m'adapte.
Avec raison. Je pense que...
Mais ça sort de la zone de confort, là.
Ben là,
on est habitué.
Je suis pas sur TikTok.
Non, c'est correct.
Mais non, je regarde des reels sur Instagram, par exemple.
Ah, pour vrai, c'est plus drôle sur Instagram, par exemple.
Est-ce que, mettons, l'équipe de Salut Bonjour Week-end, mettons, comment ça a été impacté tout ça, le fait qu'on n'ait plus les nouvelles sur Meta? Est-ce qu'il y a eu avoir une adaptation au niveau travail, les recherchistes? Qu'est-ce qui s'est passé?
L'adaptation est avec le lien et le téléspectateur, puis le contenu qu'on voudrait mettre sur notre page officielle. On a été bloqués, même à un moment donné, nos pages avaient été suspendues parce qu'on était considérés comme des pages d'information. Finalement, les démarches ont été faites pour montrer qu'on était une émission aussi de divertissement, donc on a pu regagner notre place.
Mais
ça fait mal aussi, ça, de voir ça, de voir que les pages officielles d'émissions d'information sont suspendues, puis que les pages qui peuvent rester, c'est de la désinformation. C'est un espace qui est occupé par quelque chose qui... Puis on sait, comme les gens, des fois, consomment rapidement, vont pas se questionner, vont pas prendre le 30 secondes pour voir que c'est quoi que je suis en train de lire,
ça
vient
d'où. Clickbait, là, les gros titres qui font jaser, puis finalement, c'est pas ça.
Alors, il y a eu cet impact-là, mais tu sais, nous, on sait qu'on est encore bien présents aussi sur Internet, avec les gens qui peuvent nous écouter en direct, puis ils peuvent nous rejoindre. Maintenant, ben, comme on est de retour, c'est possible d'avoir la communication qui est rétablie.
Ah, c'est le fun. Puis toi, Corinne, mettons, avec tout ça, c'est où que tu te vois dans quelques années, dans 5, 10, 15 ans? Comment tu vois les médias puis ta place là-dedans?
Si tu m'avais posé cette question-là il y a quelques mois, donc, par exemple, le lendemain des coupures, moi, je voyais pas du tout de suite à ça. Je me disais, ça y est, c'est la fin de quelque chose de grandiose, de quelque chose qu'on n'aura plus accès. Fait que je me disais, faut que je me réinvente, peut-être terminer dans des communications, par exemple, de politiciens, de municipalités. Tu sais, je me voyais plus dans un milieu qui, visiblement, survivait peut-être pas à la génération des jeunes qui la suit plus, malheureusement. La nouvelle, c'est triste à dire, mais c'est un constat. Maintenant, je me dis que, pour l'instant, on s'accroche, puis que c'est pas fini. Je pense pas qu'il va y avoir de fin à la nouvelle. L'information va toujours exister, mais comme vous l'avez dit, va falloir s'adapter. Fait que ce soit par des formats qui vont être plus accessibles parce que, puis je m'inclus là-dedans, là, on est une génération lâche sur ce plan-là. Nous, ça donnait bien que ça soit sur Facebook puis qu'on les suive direct. Ouais. Mais là, de faire le step de plus puis de s'abonner à Le Soleil, à Radio-Canada, à nouveau. Bon, c'est du temps. Il faut se créer un compte, une adresse courriel, valider notre compte, l'ouvrir, voir les notifications. Ça, malheureusement, notre gang, on n'est pas très bon là-dedans. Fait que c'est de se demander si moi, plus tard, je vais vouloir continuer d'un peu représenter les médias puis essayer de faire ma job dans un contexte qui va être différent. Pour l'instant, oui, c'est ce qui me tente. J'aimerais ça continuer d'être journaliste sur le terrain, de continuer à représenter des histoires des gens. Si ça ne peut pas fonctionner dans les années à venir, toujours dans les communications, je pense que c'est un domaine qui m'appartient, que je me sens appartenir. Là. C'est là où je me vois. Donc, ça serait là-dedans, c'est certain. Mais d'ici là, je vais continuer le plus longtemps possible, ça, c'est sûr.
C'est le fun à savoir au moins.
C'est une belle réponse. C'est une belle réponse. Oui, mais oui. Puis le métier a tellement changé aussi parce que je vois Corinne évoluer comme jeune journaliste. Puis, tu sais, à mon époque, il y avait deux rendez-vous à alimenter, le bulletin nouvelle du midi, puis après ça, le bulletin nouvelle de 18 heures. Mais quand tu es un journaliste sur le terrain, maintenant, tu alimentes tes plateformes. T'es toujours en onde avec l'information en continu. Eux autres, ils font tout. Le montage, moi, écoute, là, on était sur des cassettes quand j'ai commencé. Non, c'est vrai, ça fait vieux, mais juste pour vous dire qu'en 30 ans, à quel point le numérique a tout changé là, dans notre milieu. Absolument. La rapidité, c'est une grande force, là, mais aussi, la machine, il faut que tu la nourrisses. Oui. J'ai tellement d'admiration pour la relève journalistique. Ils travaillent tellement bien, ils sont précis, ils comprennent vite. Il exécute vite. Moi, je m'incline devant cette relève. C'est de toute beauté.
Puis, mettons, est-ce que tu peux nous décrire une journée typique dans les bureaux en tant que journaliste? Ça fait quoi?
Oui. Donc, moi, j'arrive le matin, puis il y a quelqu'un qui va être à l'affectation plus tôt. Donc, qui va, entre autres, être à Salut Bonjour pour faire la fenêtre sur le Québec. Fait que chaque région a une fenêtre pour présenter l'actualité de son coin. Donc, cette personne-là va regarder les journaux, regarder les nouvelles, regarder les pages Facebook, voir qu'est-ce qui se trame dans la région. Tu te fais donner ton sujet. Puis, tu as environ jusqu'à midi pour, entre autres, faire le plus d'entrevues possible, choisir des images, puis surtout comprendre ton sujet. Puis après ça, tu vas en onde, tu fais un court résumé, une converse, comme on appelle, qui est en direct. Puis après ça, tu as toute la journée pour tenter d'alimenter ce que tu avais déjà, ta cueillette, dans le fond. Tu fais encore plus de recherches, donc tu rajoutes des entrevues, tout ça. Puis comme ma mère l'a dit, au courant de la journée, si le réseau, donc à Montréal, considère que ton sujet il est d'importance autre que régionale, mais pendant la journée, tu vas être appelé à faire des converses avec eux aussi. Fait que des fois, ça peut être des sujets comme, c'est niaiseux, mais l'autre fois, c'était les terrains de golf qui étaient ouverts un 27 février. Mm-hmm. On voit ça, c'est banal, mais pas tant. Avec le réchauffement climatique, ça fait mal à voir. Ben, tu sais, là, j'ai fait 4 converses pour Montréal parce qu'eux se sont dit, aïe, aïe, c'est gros ce qui se passe en Estrie en ce moment. Puis, ben, à la fin de la journée, tu rends un reportage d'environ 2 minutes, 2 minutes 15 qui fait un espèce de topo de ta journée. Tu rends ça. Puis, le lendemain, c'est la même formule, mais avec un tout autre sujet. Ça ressemble à ça.
C'est cool.
Ouais.
Puis, est-ce que, mettons, à chaque jour, tu sens que c'est un nouveau défi ou le fait que ça a des tâches quand même assez similaires, peu importe le sujet, tu trouves que c'est quand même redondant?
Ouais.
En grand guillemets, mettons?
Ouais. Ouais, je peux. C'est vrai que souvent, ça peut être redondant, mais ce qui est le fun, c'est qu'un matin, tu vas te réveiller, tu sauras absolument rien par rapport à la culture des vignes, donc comment les gens font du vin. Et ouais. Le soir, tu es un expert. la grève des fonctionnaires, moi, c'est mon premier direct à vie. J'avais aucune idée. Je le voyais dans le travail de mes collègues qui couvraient le sujet, mais quand tu le portes toi-même, t'es quand même avec un micro puis une caméra, puis le public s'attend à ce que, ben, premièrement, tu comprennes ce que tu lui dis, c'est important, puis que t'aies pas l'air dépourvu, là, faut que tu comprennes, là, tu veux pas avoir l'air fine en avant, fait qu'il y a ça aussi, donc il y a, oui, un aspect qui peut sembler redondant, mais au final, l'apprentissage de, ben, une journée, t'es une pro de la culture des tomates, le lendemain, t'es une pro des places en CPE, puis après ça, grève des infirmières, ben, c'est toi qui es là, fait que cette espèce de tournant tout le temps, ça donne encore plus le goût de continuer.
Puis, mettons, j'aurais une question, mais ça serait pour les deux, en fait, parce que là, on parlait justement de topo. Ça serait quoi, mettons, peut-être, Eve-Marie, vu que tu as une plus grande carrière, peut-être passer un peu plus, mais le topo qui, mettons, qui vous a marqué, que vous avez soit le plus aimé faire ou qui a été le plus gros défi, mais mettons, le plus marquant.
Le plus marquant pour moi, j'ai fait un événement à l'international. J'ai couvert le mariage de Prince William puis à Londres.
Okay.
Puis c'est à ma demande, j'étais allée voir le directeur d'information puis j'avais dit, écoute, cette histoire-là, je la suis. C'est un conte de fées, j'aimerais pouvoir la raconter. Et à ce moment-là, je suis journaliste, je suis pas animatrice, donc je suis dans la salle des nouvelles. Puis je suis lectrice de nouvelles, par exemple. Je vais plus sur le terrain. Puis il dit, est-ce que tu parles anglais? Je dis, oh oui, je speak English. Alors il dit, you're going to London. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est tout moi qui avais préparé mes rencontres avant de me rendre. J'avais vraiment fait des bons topos sur papier avant de les exécuter, mais le côté économique de la chose, le côté Québec de la chose, puis sur place, évidemment, à la couverture de l'événement, j'étais loin, là. mais ça a été une très belle couverture, puis une belle réalisation journalistique. Oui, il y a eu plein d'autres choses, mais ça.
Ça marque. Puis toi, mettons, Corinne, dans ta jeune carrière, est-ce que t'en as déjà un, mettons, que tu peux dire, celui-là, il m'a vraiment marqué ou celui-là, j'ai vraiment aimé ça le faire?
Ouais, vite de même, c'est une fille que j'avais vue sur les réseaux sociaux, puis elle allait faire ce qu'elle appelle la grande traversée. Donc, elle partait de Sherbrooke vers les îles de la Madeleine. Elle faisait un triathlon, mais réinventé. Fait que vélo, marche et rame.
Oh.
Puis, elle nous avait accueillis chez elle pour nous montrer son installation, qui était entre autres inspirée de Mylène
Paquette
qui avait, elle, fait la traversée de l'Atlantique. C'était elle, sa mentor. Puis, en gros, cette fille-là voulait entre autres prouver que, ben, c'est pas parce que t'es peut-être pas dans les modèles de beauté qu'on s'attend d'un athlète. Elle était taille plus, puis c'est ça qu'elle voulait montrer. C'est que même malgré son poids qui était différent des athlètes, par exemple, olympiques, des gens qui font des marathons, elle avait sa place à le faire, puis elle a réussi, puis elle nous a accueillis dans son périple.
C'est vraiment beau.
Fait que ça a été un beau reportage à faire. Les images, les clips, tout ça. À la fin de la journée, je me suis dit, wow, c'est beau ça.
Un beau modèle.
Puis c'est sûr qu'on peut pas vraiment prédire l'actualité, mais si tu avais un topo de rêve que tu aimerais couvrir, ça serait quoi?
Hey, ça, c'est un topo de rêve.
Tapis rouge des Oscars.
Ouais.
Mais je vais pas te donner des idées,
pas nécessairement faire des entrevues sur le tapis rouge, mais moi, la chronique culturelle, c'est mon moment préféré. Puis ce que j'aime, entre autres, quand il y a des événements comme les Golden Globes, les Oscars, les Emmys, tu sais, souvent, il y a toujours des entrevues avant qui présentent des gens. Entre autres, cette année, court-métrage québécois qui est fait par une équipe ici, Invincible.
Oui,
ça. Cette histoire-là, il y a quand même quelqu'un qui l'a trouvé parce que c'est plate à dire, mais des fois, les courts-métrages, quand on parle des Oscars, on les oublie, mais c'est quand même une catégorie qui est importante. Ben, de trouver ça, puis de parler à ces gars-là, cette équipe-là qui ont crème, c'est des petits gars d'ici qui ont, mm-hmm. qui ont une nomination aux Oscars. Fait, ça serait peut-être ça, d'être mm. en charge de porter l'événement, le avant, le pendant, le après, peu importe. Mais ça serait, ouais, ça sur ma checklist, là, ça serait dans
parce
le
que top. C'est vrai que j'ai l'impression que la culture québécoise n'est pas vraiment mise ou brillée comme, mm. comme elle se devrait à l'international. Exact. Puis c'est vrai que la, essayer de la faire briller puis la faire rayonner, je pense que ça serait vraiment un très important. Beau défi, très belle réalisation. Mm. Mm-hmm. Puis est-ce que, exemple, une carrière à l'international, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, à quoi t'aspires?
Oui, au début, je me disais peut-être dans la politique internationale, sur les champs de bataille. Puis là, plus ça avance, puis je suis bien dans mes pantoufles.
Ouais.
Ouais,
il reste que, tu sais, une affectation. T'sais,
comme t'as fait.
Ouais, OK.
Dans un domaine ouais. que j'aime, fait que la ouais. culture. Mais okay. mettons, je me verrais pas aller couvrir une convention de l'ONU, par exemple. Okay. Je pense pas que c'est ce qui me fait vibrer. Je le ferais. Est-ce que je serais, oh mon Dieu, wow! Oui, je serais starstruck, mais ça reste que au final, la petite fille de culture, elle aurait peut-être aimé faire un autre mandat. Donc, peut-être autrement, oui. Mais à date, je suis bien dans mes petites pantoufles au Québec. Ouais.
Puis, je sais pas si vous avez écouté l'émission The Morning Show.
Oui.
Oui. Puis, admettons, en tant qu'animatrice là, au Québec, comment est-ce qu'on peut voir la différence au niveau international, États-Unis, l'espèce de vedettariat, puis au Québec, est-ce que il y a une différence majeure là-dedans?
Ben, il y a une différence. Là. Moi, j'ai pas un chauffeur.
OK, ouais.
Mais j'évolue dans une émission qui a une belle grande cote d'amour du public. Alors oui, c'est sûr que quand je fais des sorties publiques, comme l'épicerie ou quelque chose, je me fais reconnaître, puis c'est des beaux commentaires. T'sais, les gens nous disent, on aime ça, vous avez l'air d'avoir du fun avec votre gang, votre équipe. Donc, la rétroaction du public, elle est véritable. On vit pas des drames comme dans The Morning Show. les équipes sont plus réduites. Juste vous dire, nous, on travaille pas avec des télésouffleurs.
OK.
On a des caméras devant nous, mais il n'y a aucun texte dans nos caméras. Aux États-Unis, tout est scripté. Alors, moi aussi, il y a des choses qui sont scriptées, mais elles ne me sont pas présentées à l'écran. Je les ai dans ma tête, j'ai un repère visuel sur mes feuilles, ce qui fait que des fois, on s'enfarge un peu, ce qui fait que des fois, on s'enlise.
Mais c'est une plus grande préparation, j'imagine.
Un petit peu, oui. L'équipe aide énormément, là. Mais c'est
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ça, c'est que ça vient plus du cœur. Peut-être aux États-Unis, ben ça vient du cœur, mais c'est quand même préparé. C'est, mm-hmm. c'est tout est scripté. Puis, tu sais, ben écoute, l'horaire semble différent. Eux autres, le gros bloc, là, il est de 7h à 9h. Nous autres, on est en onde à 6h30. Tu sais, j'arrive au bureau à 4h-10 à peu près. Jennifer Aniston a fait son tapis roulant avant d'aller travailler. Pas moi. Pas moi. Mais il y a des trucs, tu sais, je sens une curiosité, comment ça fonctionne. Une grosse émission comme Salut, bonjour, on a une équipe qui nous soutient. Donc, il y a une équipe qui s'occupe de choisir des vêtements pour nous. Il y a des gens qui font la préparation de ça. Moi, j'arrive le matin, mon linge est choisi. Avec mes chaussures, les bijoux qui sont suggérés, c'est des vêtements que j'ai déjà essayés, que j'aime, qui soit me sont prêtés ou qu'on a déjà achetés, mais avec l'aide d'une styliste. Après ça, il y a quelqu'un qui fait mon maquillage, il y a quelqu'un qui fait mes cheveux. Mais c'est ça, ça fait un peu Ligue nationale. mais c'est ça. Comment? Parce que veux pas, je reviens à ce que je disais tantôt, mais c'est de l'image, la télévision, puis ouais. on rentre là-dedans.
Puis tu parlais qu'il y avait beaucoup d'amour face au public. Ouais. Puis est-ce que ça s'est arrivé des commentaires plus négatifs en personne que tu as dû...
En personne?
Oui.
Ben non.
Non?
Non. Réseaux sociaux.
Ça se cache.
Ça, c'est facile.
Comment tu deals avec ça?
Attends, je vous raconte. Quand même, en personne, la semaine dernière, il y a une madame, elle me dit, je vous aime beaucoup, mais j'haïs ça quand vous mettez du vert.
Bon.
J'ai dit, regardez pas demain matin. Puis j'ai dit, je vais être en vert. Là. Bon, c'est un habit, là, pantalon, jacket, tout est vert. Là, elle était comme, Elle venait de rendre, tu sais, ce qu'on appelle un complimarde.
Oui.
C'est ça. Elle s'aperçoit que ce qu'elle me dit, d'abord, ça ne m'atteint pas. Mais en même temps, elle dit, non, mais j'aime beaucoup votre énergie, c'est juste... Mais j'ai dit, madame, ça se peut très bien que vous aimiez, vous ayez pas un coup de cœur pour mon linge à toutes les fins de semaine, c'est normal. Mais sur les réseaux sociaux, je fais partie des gens, par exemple, qui sont quand même aimés. J'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de... Surtout quand ils ont annoncé ma nomination, mm-hmm. C'était beau, les gens étaient contents pour moi, ils me disaient des belles choses. Sinon, mais c'est comme partout ailleurs.
Ouais, mm-hmm. Ouais, c'est sûr.
C'est ça.
Puis est-ce que toi, t'aspires à Corinne aussi à une carrière en animation? C'est quelque chose dans les plans potentiellement?
Peut-être. À date, j'aime ce que je fais. J'aime ça être sur le terrain. Puis peut-être de l'animation au culturel, mais je me verrais pas être à la tête de Salut Bonjour ni Salut Bonjour Week-end. Je pense pas que c'est un mandat qui est fait pour moi. Autant j'ai aimé être impliquée de près dans cette émission-là. Je sens que c'est peut-être pas ce à quoi je suis destinée à aspirer. Donc, peut-être de près ou de loin, des chroniques culturelles, tout ça. Mais pour l'instant, j'aime le journalisme puis je vais essayer de le faire le plus longtemps possible.
Puis, mettons, ta mère, comment elle t'inspire autant sur le plan professionnel que personnel?
Les deux sont très proches, vu qu'on fait le même métier. Ben non, pas le même métier, mais qu'on travaille dans le même domaine. Ma mère, elle m'a inspirée que c'est possible de le faire. Fait que c'est possible. Si ça te tente, fais-le. Jonquière, ça te tentait, parfait. Tu déménages à 3 heures de chez vous à 17 ans, t'es capable. TVA Sherbrooke, ça te tente, parfait. Tu vas le faire. Puis, tu sais, c'est à me montrer que quand on veut, on peut. Ça sonne vraiment mm-hmm. quétaine, mais pour vrai, c'est ça. Puis, ben sur le plan personnel, ben encore une fois, c'est la capacité de jongler entre la vie professionnelle, la vie personnelle. C'est d'être autant passionné des années plus tard. Tu sais, ça va faire 28 ans, je pense, que tu es dans le domaine.
À TVA, 27. Mais c'est ça, 30 ans depuis mon diplôme.
C'est ça. Donc, autant d'années plus tard, être autant passionné, elle a toujours les étoiles dans les yeux après avoir fait une bonne journée, après avoir fait une entrevue qu'elle sent qui a fait une différence. Fait que c'est sur ce plan-là que moi, je suis inspirée en tant que, non seulement que fille, mais qu'en tant que fille qui la voit aller. Ouais.
Puis voir sa fille dans ce domaine-là.
Et que ça me rend fière. Ah, je trouve qu'elle fait bien ça. Elle le fait pour les bonnes raisons, d'abord. Et cette autonomie qu'elle avait quand elle a décidé d'aller à Jonquière pour voler de ses propres ailes, c'est formidable. Je sens que c'est un beau chemin qu'elle est en train de prendre. Puis Corinne, elle m'a toujours impressionnée par... tu sais, elle dit que je lui montre que tout est possible, mais elle n'a pas besoin de ma permission. Elle le fait déjà. C'est dans elle. Elle faisait un camp de vacances à un moment donné. Elle est partie 21 jours en canot. Minogamie. Mais tu sais, c'est ça. Elle est très, très forte. Puis ça, je le sais depuis le tout début. Vraiment.
Puis est-ce que tu sens une pression de réussir à cause de ta mère? Puis si tu veux pas qu'on rentre là-dedans, est-ce que tu as eu des commentaires des fois? Ah, oh, ta mère est là-dedans, ça va être facile.
Oh mon Dieu. Ça va être mon cheval de bataille, je pense, pour toute ma carrière qui mm-hmm. m'attend. J'espère qu'elle sera longue et que ça sera plus le cas. C'est plate de se faire dire ça. On dirait qu'en 2024, on peut pas accepter qu'une jeune fille suive son rêve, mm-hmm. fait la carrière qu'elle veut. Non, il faut que ça soit parce que sa mère est dans le domaine. Mm. Non, il faut que ça soit parce que sa mère, c'est une des animatrices de TVA. C'est vraiment choquant. Puis oui, je l'entends souvent. Chaque fois que ma mère poste une photo avec moi ou qu'elle parle de moi, il y a toujours le commentaire qui va dire « Bon, elle rentrait à TVA parce que sa mère était là. » Faut savoir que non. Premièrement, j'ai fait mon propre chemin.
Oui, c'est vrai, je confirme.
Mon diplôme, mais j'ai fait les travaux. Puis c'est juste plate de se douter qu'il y a des gens qui pensent ça, mais encore une fois, on fait pas le même travail. Les gens le savaient pas que c'était ma mère. Ça a pris du temps avant que les gens le sachent. En tout cas, dans mon entourage à TVA Sherbrooke, c'était un secret. Là. Il n'y avait mm-hmm. pas beaucoup de monde qui le savait. Puis oui, il y a une pression de se dire, OK, les gens sont au courant que c'est ma mère. Les gens, ils la voient toutes les fins de semaine. Ça fait longtemps qu'elle fait le métier. Mais à chaque fois qu'il y a cette petite boule de stress qui me pogne, je me dis, premièrement, ça fait même pas un an que tu fais ce travail-là, donc relax. Puis on commence tout quelque part. Mm-hmm. On est tous débutants à un moment donné dans notre vie, puis on va tous devenir meilleurs. Fait que c'est avec ça que je me rassure, mais oui, ça arrive, le petit commentaire.
Puis si je reviens à la question, as-tu des commentaires positifs? Ah, oh, tu me fais penser à ta mère.
Oui, vraiment. Autant sur le plan physique, on a le même sourire, puis je pense que
les deux, quand on a les étoiles dans les yeux, les gens ils voient des similarités, puis on est vraiment très expressifs. Là. On est en même temps. Quand quelqu'un nous intéresse, la tête nous hoche, puis ah ouais, ah ouais. Puis les gens qui ont vu ma mère commencer tôt dans le métier, souvent j'ai l'impression qu'ils voient qu'on a un peu le même. On est vif d'esprit, on est créatif, on a le goût d'être là. Fait qu'il y a ces similarités-là que les gens sortent, puis ils disent tout le temps « la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre », si on l'a entendu.
Oh, c'est un beau compliment, ça, ouais, par exemple.
On l'entend ouais, souvent, fait que ouais, c'est le fun aussi. Il y a plus de commentaires positifs que négatifs, mais
bon, on
se souvient des négatifs, bon, c'est sûr.
Mm-hmm. Ben tant mieux. Fait que sur ces beaux mots d'inspiration, on va prendre une petite pause publicitaire. Restez avec nous, on se revoit après la pause.
Vous écoutez le show. Vous écoutez le show des trois flots.
Nous sommes de retour sur les ondes de 96.9 au show des trois flounes avec Eve-Marie Lortie et Corinne Crouza, deux belles invitées avec qui on a la chance de parler depuis plus d'une heure et quart. Merci encore une fois de votre présence, c'est super, super apprécié. Donc, prochain sujet, on y va dans le scandale, dans le drame. cet automne, Eve-Marie,
oui,
on a eu la chance de te voir, non pas salut bonjour, mais bien à JE concernant là, toi et quelques autres personnalités publiques qui ont été utilisées comme des figures, des images concernant là, des produits amaigrissants sur Internet.
Des gummies.
Les gummies miracles.
Ouais, ça a été tout un fléau. Ça a pris une grosse année et demie de ma vie où dès que je mettais une photo sur mes réseaux sociaux personnels à moi, il y a quelqu'un quelque part qui prenait cette photo-là, qui utilisait ça pour faire la promotion de supposés produits amaigrissants. Ce qui était dérangeant, c'est que ça a été pour moi aussi mon premier contact avec l'intelligence artificielle, ce que ça peut faire quand ça génère des textes, par exemple. Parce qu'il y avait un texte qui accompagnait la publication pour la dite le bonbon amaigrissant. C'est un texte qui était rédigé au jeu. Comme si moi, j'avais pris la plume pour raconter mon témoignage dans une aventure de perte de poids grâce à... Et le fait que ça soit écrit au « je », ça me bouleversait, là. C'était de mettre des mots dans la bouche que j'ai jamais dit. Non seulement tu utilises mon image, mais en plus, tu m'inventes un récit. C'était rédigé comme... Ça disait que j'aimais pas aller au gym, alors que je fais... Hein, on s'est croisés, Lily Rose?
Je témoigne. On s'est croisés les vendredis au gym.
Ben, alors, puis dès qu'il y avait une nouvelle image que je mettais sur mes réseaux, cette image-là était utilisée. Donc, il y avait... La colère envers le fraudeur, les fraudeurs, l'utilisation d'intelligence artificielle. À un moment donné, ils ont pris ma voix, parce que des échantillons de ma voix, il y en a partout.
Ben oui.
C'est très facile. C'est sûr que c'est pas au point. Quand tu écoutes ce qu'ils ont fait, tu sens à quel point, c'est robotisé, mais il y a mes intonations, je me reconnais, là, vraiment.
Ça doit faire peur, écoutez
ça. Ça fait peur.
Ben oui.
Et ce qui me bouleversait le plus, c'est que les gens tombaient dans le piège. Des gens qui se méfient pas, qui voyaient pas la nuance dans les textes, les fautes, ou qui voyaient juste Eve-Marie. On l'aime beaucoup, on la voit depuis des années. On lui fait confiance parce que j'ai quasiment pas fait de pub, moi, dans ma carrière. Là, elle endosse un produit. Ah ben, on commande. Ça, là, c'est pour ça qu'il y a eu la dénonciation auprès des policiers d'abord, puis après ça, avec l'émission JE. Puis on s'est aperçu, bon, que c'est il y avait d'autres personnalités qui avaient déjà été victimes de ça, qui le sont peut-être encore. Là, il y a une pause. J'en vois plus.
OK.
Puis aussi, après la participation à JE, moi, je me suis dit, là, je réponds plus non plus aux gens. Là. Il y a une responsabilité citoyenne. Là, quand ça fait plein de fois que tu le dis, là, que c'est pas vrai. Là, ça me demandait quand même pas mal de temps. Ça m'a mis en colère beaucoup, très méfiante depuis... Je mets beaucoup moins de choses sur mes réseaux sociaux. C'est plate. Parce que sur Instagram, moi, j'aimais ça. J'aimais ça. Puis Corinne, elle m'aide, là, tu sais, parce que je pars de loin, là, pour mes stories, tout ça, là. Je commence à peine à mettre de la musique. mais ça m'a quand même mis le pied sur le frein. Et je suis très méfiante. Ça m'a choquée qu'on prenne des choses sans demander la permission.
Puis en fait, c'est comment tu as fait pour découvrir... C'est que c'était... Tu sais, en fait,
je te comprends.
Ça n'a pas de sens.
C'est quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, c'est quoi ces pilules-là que tu vends? C'est quoi?
Là, c'est là. Ouais, pilule.
De quoi tu parles? Puis, non, mais il y a une publicité de toi, là. C'est sur Facebook, Marketplace, c'est partout. C'est tes photos, c'est toi, c'est quoi? Comment on fait pour se commander ça? Ça marche-tu pour vrai? Puis, c'était sur Messenger.
Ben oui.
Puis après ça, c'était 3-4 personnes par jour. Après ça, 6-10. Voyons. Mmh. Et à un moment donné, je me suis vue.
Ah!
À un moment donné, ouais. Je suis sur mon fil d'actualité. Mmh. Je fais puis là, je me vois, la pub, elle m'apparaît. Hey, screenshot, hein?
Ben oui, c'est ça.
Oui.
Tu prends
une minute. Tu prends,
ouais, tu gardes ça, puis après ça, ben.
Fait que du feedback négatif, t'en as eu, là, de ça, là, le monde t'écrivait par rapport à ça.
Oui, mais c'était du feedback. C'était juste, moi, j'essayais de les mettre en garde, là. Mm-hmm. C'est des centaines de dollars, là.
Ben, c'est sûr.
Personne peut dépenser ça, là, peut gaspiller ça. Ça marche pas! Il y a rien qui marche! C'est ça.
Quand même.
Oui. Puis l'émission JE a fait un beau travail d'enquête pour arriver à une conclusion qui est que ça se passe ailleurs dans le monde. C'est des réseaux qui sont très organisés pour frauder facilement. Mm-hmm. Et comme Internet, c'est pas clair, il n'y a rien de clair.
Ouais.
Les lois internationales font que si t'es en dehors du Québec, tu peux dire ce que tu veux.
Ouais.
Et tu peux prendre ce que tu veux, puis il n'y aura pas de suite. D'ailleurs, les policiers, ils ont essayé, ils m'ont rappelé il y a quelques mois pour nous dire on va devoir mettre fin à l'enquête. Là, on ne pourra pas procéder à rien. On est bien conscient que c'est limité, c'est dommageable. On s'en excuse, c'est ça.
Puis niveau familial, c'est comment voir tout ça d'un point de vue témoin?
Ouais, ça fait peur. Tu te dis comme, OK, ça s'en vient proche de moi, là. Ça fait peur d'usurper l'identité de quelqu'un. Puis moi, c'était surtout la réponse que les gens avaient. Puis c'est de l'empathie qu'on a pour eux parce qu'ils sont vraiment tombés dans le piège. Puis tu sais, on parle souvent des fraudes, par exemple, des fraudes téléphoniques avec les aînés. Mais c'est des gens qui n'ont jamais demandé ça puis qui sont malheureusement, qui se sont fait flouer. Puis je les comprends d'être fâchés. Parce que c'est de l'argent qu'ils ont mis puis ils ont fait confiance en quelqu'un. Ils ont fait confiance en quelqu'un qui voit le matin, qui est un visage rassurant, qui est connu, qui est une fille de l'info, qui est le fun en onde, exact, qui rit, qui aime ça. Puis là, ah ben là, j'ai mis 200, 300 $ pour des pilules de farine. J'ai mis quelque chose que j'ai jamais reçu au final. Fait que moi, c'était ça qui me rendait triste, qu'on en parle souvent de la fraude, tout ça, puis gare à ça, c'est pas des messages. Mais le fait que ça s'en vienne de plus en plus proche de toi, bien, c'est là que tu dis premièrement que la chose est plus grande qu'on le pense, puis qu'il va falloir trouver des solutions au final, parce que c'est plate à dire, mais c'est peut-être fini pour l'instant, mais ça
va recommencer.
Ça peut toujours
recommencer mais c'est ça.
N'importe qui. Mm-hmm. Ça va être une autre personnalité, ça va être un autre produit, puis la roue, malheureusement, elle se réinventera pas.
Puis surtout sur une période de un an et demi, est-ce que ça affectait beaucoup ton quotidien? Dans le day-to-day, comment tu te
sentais face à ça? Dans le day-to-day, ça te prend, faut que tu répondes. J'avais un message générique que j'envoyais. Il y a même des gens, une fois que j'ai répondu, tombez pas dans le piège, méfiez-vous, j'ai rien à voir avec ça. Ils revenaient à la charge. Oui, mais je peux-tu essayer quand même? Non, madame, non.
Oh my God, OK.
Non. C'est fragile, hein? La santé. L'image corporelle, la perte de poids, quand tu appuies là-dessus, tu déclenches quelque chose chez les gens s'il y a une vulnérabilité. Mm-hmm. Et les fraudeurs, ils vont là où on est vulnérable. Oui. Alors, ils rentrent là-dedans. Dès que tu promets quelque chose de miraculeux, comme l'humain veut du changement, l'humain veut...
La vitesse,
veut correspondre à des cadres, effectivement. On tombe dans le piège. Mm-hmm. C'était ça qui était choquant. Mm-hmm. C'est ça. Alors, ça me prenait un peu de temps de rétroaction là-dessus.
Ouais. Puis en plus, c'était quelque chose que tu pouvais pas contrôler. Tu sais, ça se passait à l'extérieur, tu savais pas ça venait de où, tu savais pas c'était quand ça allait être, genre, posté sur les réseaux. Puis, tu savais pas non plus quelle personne allait tomber quand dans le panneau. C'était aussi...
Exactement. Tu sais, si j'avais pu cogner quelque part à la porte et dire « OK, ça suffit. Là, on va se parler, là. » Mais
il y avait rien à faire, non, c'est ça.
Non. J'y ai démontré que c'était dans l'Europe de l'Est, ça partait de là, puis c'est satellitaire, cette patente-là. Ouais. Puis, tu sais, ils sont tellement habiles. Dans mon image, mais il prenait par exemple une photo de moi avec une de nos collaboratrices santé à l'émission, mm-hmm. qui est une médecin, mm-hmm. docteur Natalia Vaux.
OK.
Puis ils prennent cette image-là, puis là, ils mettent Natalia là-dedans. Mm-hmm. Mais Natalia est membre de l'ordre là, des médecins.
Je veux dire, ça ben, c'est ça. Mais
Natalia mais oui. Vaux, là, dans son cabinet de médecine familiale, elle a des patients qui ont mm-hmm. dit « Les pilules, là, avec Ève-Marie, je peux-tu en avoir, moi aussi? » C'est une médecin. Donc, l'ampleur, mais c'est oui. ça. C'est ça, la conséquence.
Mm-hmm. C'est que ça va loin.
Ou que ça va, mm-hmm. que ça va loin.
Tu sais, des fois, tu vois ça passer sur les réseaux sociaux, mais tu sais, prendre un peu de recul puis dire hey, « ça touche vraiment le monde pour de vrai, là. » Puis mm-hmm. c'est vraiment impactant. Ça doit être anxiogène quand même, hein?
Oui. Oui, puis je sais qu'autour de la table, particulièrement vous autres, les trois flounes, vous êtes aussi des gestionnaires de réseaux sociaux pour des projets sur lesquels vous évoluez.
Oui.
C'est important, les réseaux sociaux.
Oui.
Mais avec ce qui est arrivé, j'ai un peu peur. Mm-hmm. C'est comme si j'avais eu un accident, puis je veux pas y retourner. Mm-hmm. Tu sais, je suis très méfiante. T'as remarqué, Corinne, je me presque... Puis à chaque fois que je mets quelque chose, je sais que ça va rebondir aussi sur un autre site, je sais pas mm-hmm. trop, là, que... Bon...
Mais c'est ta potin.
Mais c'est ta potin. Ouais.
Mais en parlant des réseaux sociaux,
ouais.
Moi, une des publications que tu as faites que j'ai particulièrement adorée, c'était celle qui annonçait que tu étais encore une fois ambassadrice pour la campagne, là, Novembre. Ça exactement, là, c'est quoi ce projet-là, puis qu'est-ce que ça représente pour toi?
Novembre, c'est la grosse campagne qui est mise de l'avant par Procure. Procure, c'est un organisme qui milite d'abord pour conscientiser, amasser des fonds, surtout pour la lutte contre le cancer de la prostate.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment là pour organiser un tissu social puis un endroit où les hommes peuvent aller chercher de l'aide. C'est fouillé. Ils sont là pour répondre aux questions. Qu'est-ce qui va m'arriver comme homme si j'ai un cancer de la prostate, j'ai des symptômes, puis bon, est-ce que je vais perdre certains aspects de ma virilité? Mon père a eu un cancer de la prostate. Ça s'est bien déroulé en ce qui le concerne. Il a fait les traitements. Puis papa est décédé maintenant, mais pas de ça. Mm-hmm. Il a eu une belle vie d'homme malgré le cancer de la prostate après. Et c'est des connaissances à moi qui s'occupent de la campagne. C'est une campagne photo.
Okay.
Et les filles, Julie Perrault,
oui.
la comédienne qui est aussi photographe, et Andréane Gauthier qui est une photographe formidable, nous accueillent et nous disent « Fais-nous confiance ». Puis là, on va aller chercher un côté de toi peut-être un peu plus femme, féminin, qu'on voit pas souvent. Puis ils nous font jouer un peu, pas la comédie, mais l'abandon dans quelque chose de très, très sécuritaire. Ce que ça sert, à quoi ça sert ces photos-là? Ça fait juste jaser. Et si on jase, bien, on en profite pour parler du cancer de la prostate. Puis moi, je trouve que les femmes... On a un rôle à jouer dans cette maladie-là de soutien.
Mm-hmm.
Souvent, c'est nous autres, les blondes aussi, qui vont dire à nos chums, ou les filles qui vont dire à leur père, ou à les sœurs à leurs frères, ou les chums de filles aux chums de gars, « Prends-donc soin de toi un peu, là.
Mm-hmm. »
Moi, je vois des signes de fatigue, je vois des signes... Tu sais, les filles, on prend soin. Des fois, nos hommes autour de nous, ils balaient ça de côté, ils vont pas aller chercher de l'aide ni pour jaser, ni pour la santé. Mais c'est ça, le rôle de la... Je voyais mon rôle comme ça d'ambassadrice pour rappeler qu'on est à vos côtés, puis on va être là pour vous rappeler de prendre soin de vous autres, les gars. Puis si jamais, ben il faut soutenir, on va soutenir.
Ah, mais c'est une super campagne pour... Mm-hmm.
C'est beau, hein?
Le message, puis la photo, wow, c'est ma photo préférée, je pense de toi!
Oui, j'ai confirmé l'année prochaine.
Ah oui,
ouais, ils m'ont demandé, puis je
ça rembarque. Va être à combienième année?
6 ou 7, okay. Lily Rose, je ne suis pas certaine. 6 ou 7 quand même.
Ouais. Ah, c'est cool, c'est un beau projet.
Ouais.
Puis, en restant dans le thème des réseaux sociaux, pour Corinne, la question, c'est commençant à baigner là, dans la sphère plus publique, dans les télévisions des gens, comment tu vois ta relation avec les réseaux sociaux? Est-ce que, tu sais, tous les créateurs de contenu, les influenceurs de ce monde qui pop à tous les jours, toutes les semaines, est-ce que c'est comme une branche que tu aimerais peut-être explorer ou toi, tu veux vraiment garder ça plus privé, tes amis? Comment tu vois ça, mettons?
Ouais. C'est sûr que j'aime faire des stories, j'aime mm-hmm. montrer mes voyages, j'aime montrer ma vie. Puis, je trouve que dans le métier que je fais, c'est facile de le faire pour les caméras. C'est facile de tomber dans cette petite branche-là qui est sournoise, mais qui est là. C'est facile de faire la story de « Rejoignez-moi au TVA à 17h, je vous présente un bulletin. » C'est là, moi, que je mets mon pied à terre puis je me dis non. Parce que là, à mes yeux, on est rendu à le faire pour le contenant plutôt que le contenu.
Mm-hmm.
Là, t'es rendu pour le faire de « Ah, tu travailles à TVA. » tu te mets belle pour faire de la télé, tu te présentes, tu te montres aux gens. Donc, sur mes réseaux, j'aime ça rester personnelle. Je partage ce qu'on fait en gang, je partage des photos des fois avec ma famille, au chalet, tout ça. Puis, pour l'instant, je me vois pas devenir influenceuse, créatrice de contenu. C'est pas quelque chose qui m'attire parce que c'est trop gros, j'ai l'impression. Puis là-dedans, moi, je me perdrais. Puis oui, on travaille dans l'image, dans le public, on travaille, on se montre aux gens, mais il y a toujours le petit stress de est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que les gens vont me trouver belle, vont me trouver pertinente? Puis moi, ça, je trouve que c'est un piège. Faut pas tomber là-dedans parce qu'on le fait pas pour eux. On le fait pour nous, on le fait pour le contenu. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui m'attire. Je les suis, je suis coupable. J'en suis une coupe, je les aime, sont très bonnes, bravo à elles. Je vais leur laisser faire leur travail. Puis moi, je vais faire le mien en faisant ma petite story occasionnelle de coucher de soleil.
Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que, comme tu sais, c'est l'aspect, ça pourrait être très facile pour toi là, de monter cette clientèle-là, ce réseau-là, puis savoir que tu es capable de garder tes racines, de mettre ton pied à terre face à ça. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant.
Ben, c'est ça. C'est bon de garder son côté professionnel, mais aussi le côté personnel, mm-hmm. puis de ne pas s'oublier en tant qu'individu et non juste en tant que personne qui travaille pour TVA.
Exact.
C'est vraiment bon que tu fasses ça, justement.
Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de se rappeler ces influenceuses-là, là, ceux qui décident de partager leur vie, c'est pas une invitation non plus à... Mettons, il y en a beaucoup que je vois passer qui mettent leurs choses, mais mettons qu'on les voit dans la rue ou peu importe, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent « OK, ils partagent leur quotidien, c'est correct si j'embarque dans leur vie privée. Mm-hmm. » Puis je pense que... Ouais. C'est, parce que moi, je respecte aussi beaucoup ceux qui... Parce qu'il y en a qui sont très bonnes sur la séparation aussi, vie privée. Mm-hmm. Ils gardent quand même leur noyau de vie privée tout en montrant. Mm-hmm. Puis je pense qu'on peut quand même respecter aussi ce métier-là quand... Ouais. Quand c'est bien fait, puis pas prendre ça non plus comme une invitation. Tu sais, tu dis, toi, tu veux garder ça vraiment pour ton personnel privé, puis c'est tout à ton honneur, puis comme moi, je serais pareil que toi. Ouais. Mais ceux qui décident d'en montrer un peu plus, c'est pas non plus une invitation de justement d'aller prendre les photos, d'aller les partager.
Ouais. Mm-hmm. C'est pas un bar ouvert.
Non,
c'est
exactement.
Ça que tu veux dire.
C'est exactement ça. Puis parfois, j'ai l'impression que c'est perçu comme ça. Quand quelqu'un va poster une photo justement de mettons sa vie privée et puis là on peut retracer que vu que cette photo là a été prise à tel endroit, sa maison doit être proche de, c'est pas ça, c'est pas elle dit pas hey, venez vous en, mais en tout cas c'est ça.
Puis je pense qu'il y a un gros débat sûrement aussi sur poster la présence d'un enfant.
Oui, j'ai vu passer aussi
ça. Je trouve ça quand même, je trouve ça intéressant comme questionnement. Parce que, tu sais, ça reste que, est-ce que l'enfant, il veut tout ça? Il a-tu demandé tout ça? Puis quand tu te fais reconnaître à 3 ans, là, à l'épicerie, ça doit être...
Puis il y a ça, puis il y a aussi tout l'aspect aussi malheureux qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ton contenu. Pas tout le temps des personnes avec des bonnes intentions.
Non. Exactement.
Oui. Mais tu sais, Lily Rose, tu dis, avec ton enfant, nous, dans notre vie... J'ai été confrontée à ça, moi, avec les magazines. Mm-hmm. Est-ce qu'on fait la première page, mère-fille? Tu sais, puis j'en parlais tellement tout le temps de Corinne et tout ça. Il y avait vraiment une curiosité. On l'a fait. Ouais. On l'a fait 2 fois?
Oui.
Oui, 2 fois. Petite, t'as à peu près, justement, 4 ans. Puis on l'a refait quelques années plus tard. Puis après ça, là, c'était... On s'en était parlé. Il y avait eu... Tu sais, c'est correct, là. Corinne a vécu là, la photo, la une du magazine. On a des très beaux souvenirs. Mais après ça, on a fait une séparation de ça.
Dans un cadre aussi un petit peu plus là, professionnel, je dirais, avec un magazine et tout, ça mène un encadrement que, mettons, sur un réseau social, tu sais, moi, je suis mère, j'ai 100 000 abonnés, je poste la photo de ma fille sur les réseaux sociaux, puis ça peut se partager, là, mais partout, à une vitesse phénoménale. Puis après, comme Sandrine l'a dit, ça peut se ramasser dans les mains des personnes, là, que ça ne te tente pas qu'ils voient ton enfant, là, dans des contextes X, Y, Z. Puis avec l'intelligence artificielle, en ce moment, tu sais, ça devient vraiment un enjeu majeur, je trouve. Puis.
Mais c'est aussi 100%. D'imposer. Ben, pas nécessairement pour tout le monde, mais en grande majorité, ça peut aussi imposer une lignée à l'enfant qui veut pas nécessairement se tracer dans ça. Mm-hmm. C'est comme lui donner... peut-être lui enlever un aspect de sa personnalité qu'il aurait peut-être créé autrement, mais tu sais, je parle en général, je dis pas ça. Mm-hmm.
C'est un exercice de conscience à faire, puis à réaliser qu'en ce moment... On n'a pas le contrôle de ce qui sort,
exactement.
Ce qui reste. Puis le dicton plate de ce que tu mets sur Internet, ça reste.
Puis c'est vrai.
C'est vrai.
Et moi, on faisait ça par mes parents à 13 ans. J'étais comme, oui.
Tu sais, on se crée notre Facebook. On est toutes contentes d'avoir Facebook à 10 ans. Puis finalement, on se rend compte
plus tard,
que c'est vrai, ça reste.
Oui, exactement.
Ton poste de fête, il reste là.
Ah oui,
il
vient. Ah oui,
il y a des vieilles photos.
Là, c'est là que tu dis, ah, j'ai eu un glow-up, mais tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu.
Puis je pense que là, on vient à ma question de étant tous des femmes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, mm-hmm. puis qui sont quand même confrontées à des standards, puis qui utilisent entre autres les réseaux sociaux probablement comme outil de travail. C'est quoi votre relation avec les médias sociaux? Comme, est-ce que ça en vient positif, négatif? Comment avec les années ça a été travaillé, modifié?
Je vous laisse commencer, les filles.
Bien, moi, je pense... Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup Instagram, mm-hmm. mais beaucoup pour... Je vais être quand même honnête, j'aime beaucoup les recettes. Que, moi, je l'utilise, là, si on va sur mon Instagram, c'est juste des recettes de pâtes. Fait que j'aime vraiment beaucoup pour ça, mais je me suis rendu compte, moi, dans les dernières années, parce que j'ai eu justement cette réalisation-là, que je passais beaucoup de temps sur Instagram, mais pas pour les bonnes raisons. Parfois, tu sais, justement, dans la section recherche, parfois, ils te proposent des mannequins, des personnes. Puis aussi, une réalité que j'avais peut-être pas conscience à 14-15 ans, c'est souvent ces photos-là sont retouchées. Mm-hmm. En fait, la majorité le sont, même si c'est enlever un bouton ou peu importe. Mais ça donne tellement une image à une jeune fille qui essaye de se trouver, qui se trouve peut-être pas nécessairement belle selon les standards, d'un standard à atteindre, mais qui est en vérité inaccessible. Mm-hmm. Parce que c'est tellement une petite... C'est une photo, puis probablement qu'elle a dû prendre 1000 autres photos avant qu'elle ne trouvait pas parfaite ou qu'il y avait quelque chose. Fait que ça, je pense que plus jeune, ça m'a beaucoup confrontée sur justement sur mon image de moi-même, sur trouver la photo parfaite. Puis encore ce jour, parfois, j'ai la misère à me faire prendre en photo. J'aime mm-hmm. pas ça. Mm-hmm. C'est pas quelque chose que j'aime quand que c'est pas contrôlé. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, comme je dis, maintenant, c'est rendu des recettes de pâtes. L'autre, je me suis comme...
ouais, j'ai fait la paix avec ça.
J'ai fait la paix avec ça, puis aussi, j'ai arrêté de... comme parce que aussi, oui, Instagram va nous en proposer, TikTok, peu importe, mais c'est aussi toi qui va continuer à chercher. Puis moi, j'ai mis le frein là-dessus. J'étais comme, hey, ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Puis mm-hmm. mettons, justement, les influenceuses, tout, j'ai suivi avant, puis là, j'en ai plus pantoute sur mon compte personnel. J'ai su plus. Je suis mes recettes, je suis mes...
Tes amis.
mes amis, mes petits TikTok sur Taylor Swift, puis je suis bien là-dedans. Là. Okay. Fait que... moi, ça serait ça. Je sais pas pour toi, Laurie.
Bien, un peu aller dans ta lignée, mais aussi le fait que Instagram ou n'importe quel autre réseau sur lesquels on décide de poster, on poste ce qu'on veut. Si on veut montrer une telle facette de nous, on peut. Si on en veut en montrer une autre, on peut. Puis ce qui est... C'est ce que ça apporte aux autres, c'est aussi des fois d'envier, de vouloir être cette personne au lieu de vouloir se trouver son propre chemin puis sa propre personnalité. On veut souvent regarder... On a souvent des idoles puis c'est souvent à eux qu'on veut ressembler. Puis ben moi, je me compte là-dedans encore aujourd'hui. Je poste souvent sur les réseaux sociaux, puis je m'inspire de gens, mais des fois, je ne sais pas si je le fais pour les bonnes raisons. Fait que c'est encore un combat que moi, je mène, puis pourtant, je vais avoir 22 ans, puis tu sais, on pourrait croire que c'est le contraire, puis je me suis affirmée en tant que personne.
Mais je pense que, dites-moi les filles, c'est pas ça, mais je pense que dans notre génération, c'est tellement important. Là, moi, je me rappelle au secondaire de checker le nombre de likes, et comparer mon nombre de likes avec les autres, alors que... Si on s'en parle, le fait que j'ai eu 200 likes en secondaire 2, aujourd'hui, je m'en rappelle même plus.
Mais moi, ça a été mon plus grand bonheur qu'il n'y ait plus de likes sur Instagram.
Ah, ben, c'est plus les enlever, c'est ça,
ils sont bloqués. Puis tout. Puis je pense que, de base, le réseau social, c'est tellement un beau médium. C'est tellement quelque chose que tu peux faire des belles choses. Mm-hmm. C'est vrai. Mais ça peut tellement virer rapidement, justement, dans des choses. Fait que, tu sais, retirer, comme tu viens de dire, retirer les likes, retirer parfois même les commentaires. Maintenant, sur Instagram, tu peux complètement bloquer les commentaires.
Oui, c'est vrai.
Fait que je pense que, tu sais, on apprend aussi à vivre avec ça, avec les réseaux sociaux, à bien les utiliser. Mm-hmm.
Moi, personnellement, je pense que niveau réseaux sociaux, c'était pas nécessairement l'aspect physique des gens que j'enviais, c'était beaucoup plus les opportunités.
Ouais.
Moi, voir quelqu'un en voyage à ce spectacle-là qui fait telle affaire, j'étais comme, OK, mais crème, pourquoi pas moi, tu sais? Puis, avec la maturité, j'ai juste 20 ans, j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais plus j'avance, plus je suis comme, ah, mais dans le fond, je vais apprécier ce que moi j'ai en ce moment avec les personnes que je suis là, puis j'ai une chance que peut-être une autre personne n'a pas, puis c'est de, tu sais, prendre conscience de ce qui nous entoure, des personnes avec qui on est, puis ça, au final, ben, tu sais, on a chacun nos petites opportunités, nos petits bonheurs.
Ben, c'est vrai.
Même si je le présente pas, ces réseaux sociaux que là, je suis en train de faire, ben là, je l'ai fait, là, mais que. J'étais en radio en ce moment avec, tu sais, mes amis, des gens super inspirants, ben, tu sais, peut-être du monde qui disait, moi, j'aimerais ça avoir mon show de radio et tout, fait que, tu sais, c'est de se recentrer, puis tu sais, de voir, puis apprécier ce que t'as, toi, puis tu sais, ça finit là, puis tu sais, pour réembarquer avec les likes là, de Sandrine, là, moi, je me souviens, là, secondaire 1, 2, 3, là, changer ma photo de profil, au pire, à toutes les deux semaines, là. C'était que, puis il me fallait plus de likes que l'autre d'avant, là.
Le petit tag, il y a 45 personnes. Ouais,
là, t'ajoutes plein d'amis Facebook pour être sûr.
Là, ça, non, c'était pas un temps très glorieux.
Moi, personnellement, les réseaux sociaux, ça a toujours bien été. Ça a toujours été sain, mais j'ai atteint, à un moment donné, un mur. La pandémie, toute seule, poignée dans mon espèce de bulle de COVID, de regarder les influenceuses, puis TikTok, TikTok puis tout ça. Puis c'est là que j'ai fait « Oh, OK, là, ma belle, tu viens de pogner un mur. Mm-hmm. Tu te compares avec des gens qui, premièrement, ils n'ont pas du tout la même réalité que toi. Ils sont probablement au soleil toute la journée. C'est sûr qu'ils sont bronzés. Ils mangent peut-être beaucoup mieux ou beaucoup d'une mauvaise façon que toi. Fait qu'il ne faut pas se comparer. Puis il y avait aussi le fait que je regardais des gens qui montraient ah, le beau repas qu'ils ont mangé, ah, la belle marche qu'ils ont prise. Puis là, comme tu disais, mm-hmm. tu montres une partie, mais tu ne montres pas le reste. Ouais. C'est ça, les réseaux sociaux.
Surtout en COVID, quand tu files so-so par-ci, par-là.
Ben oui.
Puis là, tu vois tout le monde qui vit leur best life. Puis toi, tu es comme dans ta petite chambre et tu te dis, mon secondaire 5, c'est un peu de la merde. Là.
Exact. Fait que je pense que c'est ça. Faut pas tomber dans le piège. Puis c'est tellement facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Puis pour les plus jeunes, entre autres, là, les jeunes qui grandissent, nous, on a eu la chance d'être un petit peu moins affecté par ça parce qu'on est un petit peu plus vieille. Mais je me dis que moi, si à 13 ans, j'avais eu accès à TikTok en ce moment, puis je voyais des podcasts ou des filles qui se montrent, puis malheureusement que c'est pas le standard que je veux atteindre, mais de le voir ça puis de me le faire montrer en pleine face, ça aurait pas mal eu plus d'impact qu'en ce moment.
Mais je pense que quelque chose que j'aurais aimé ça me faire dire quand j'étais jeune, c'est que la beauté d'une personne n'en enlève pas la tienne. Oh. Puis souvent, on a tendance à faire hey, « elle est tellement belle, elle a tellement de choses » qu'on oublie que nous aussi, on a nos beautés, on a nos trucs, on a plus. Puis, tu sais, une fille est belle, elle montre des belles photos d'elle, ben go girl, genre, do your thing. Ouais. Mais comme ça, n'empêche pas le fait que moi, je suis peut-être différente que toi, mais que comme je peux être autant belle. Mm-hmm.
Puis c'est souvent dans les moments où on est en train de forger notre personnalité, notre confiance. Ouais. Début adolescence, secondaire, ça devient difficile après là, de mettre la limite entre « Ah, ben tu sais, moi, est-ce que je suis prête à m'assumer? Je suis prête à dire que j'ai confiance en moi, mais en même temps, là, tu vois l'autre fille à côté de toi qui a bien plus de likes, les plus beaux souliers que toi, puis tout. Puis après, tu te dis « Crème, je suis pas là pantoute. »
Non, c'est sûr.
Puis moi, j'ai tout vu arriver ça. Mm-hmm. Tu sais, vous, ça fait partie de vos vies depuis si longtemps. Moi, j'ai quand même un peu plus de recul que vous autres. Par contre, je me demande dans 5 ans, quelle conversation en santé publique on va avoir sur l'effet des réseaux sociaux et j'élargis à tant d'écrans.
Ouais.
Je me demande si à un moment donné, on va faire une corrélation officielle, claire, nette et précise sur nos taux d'anxiété tellement élevés. Ben, je vous entendais parler des comparaisons. Ça n'aide pas, ça, quand tu es anxieuse. Tu es toujours en train de te comparer. Mmh. On ne joue plus dehors. Puis moi, je pense que d'être dehors, dans la vie, là, d'aller marcher à l'extérieur, en tout cas, ça a été amené scientifiquement que c'est très bon pour la dopamine, puis c'est bon pour la santé et l'équilibre mental. On se débrouille plus vraiment en solitude si on n'a pas notre téléphone.
Ouais.
Un peu comme il y a eu une génération qui fumait beaucoup au réveil. Première chose qu'il y a une génération qui a faite, c'est prendre son paquet de cigarettes, s'allumer une cigarette.
Mm-hmm.
Nous, on se réveille. Moi, il n'est pas loin, là. Ouais. Il est sur la table de chevet. Je mets mes lunettes, là, puis je regarde. Ça devient un réflexe. Mm-hmm. Attends, je peux peut-être me lever, aller faire mon café. Qu'est-ce que dans 5 ans, 10 ans, on va avoir constaté comme effet sur la santé communautaire? Ça, je pense qu'on va faire le saut. Je pense qu'on va voir,
ah, mais
100%, on va voir des
mettons,
choses.
Moi, je travaille dans une école primaire.
Ah oui?
Oui, je travaille avec...
Ah, raconte!
Mais c'est ça, ben, tu sais, je le vis déjà un peu. Puis, mettons, là, je vais vous sortir une phrase qu'un de mes jeunes m'a sorti cette semaine. Il m'a dit, tu sais, en 2016, dans l'ancien temps... Il dit, il n'y avait pas ça, TikTok. Puis là, ça m'a comme fasciné. Je suis comme, hein? Comme lui, il n'a jamais vécu sans ça. Tu sais, nous, on a quand même la chance. Moi, quand j'allais voir mes amis, quand j'étais jeune, j'allais cogner encore à leur porte, là. Puis c'est stupide à dire, mais maintenant, on le fait plus, ça, cogner à une porte, là. On envoie un message, on appelle, on est là. Tu sais, on le fait plus. Puis, tu sais, je suis quand même contente et choyée, je pense, d'avoir pu vivre cette enfance-là, de prendre son bicycle, puis pas savoir où tu t'en vas où avec tes amis, puis tout. Puis, pour vrai, en école, on sort pas tant dehors. Puis maintenant, il fait froid, oui, mais juste là, les enfants sont là. Oh, on est tout obligé de sortir dehors. Ça leur tente pas. Puis je le vois tellement. Puis tandis que moi, je me rappelle, là, la récréation, c'est my time to shine. Genre, la cloche sonnait, j'étais déjà habillée, j'étais dehors. Là. Fait que,
tu voulais bouger.
Oui, mais c'est ça, on veut bouger, on a de l'énergie et tout, mais comme. Tu sais, ils ont 8-9 ans, ils savent déjà c'est quoi Call of Duty, les petits gars. Puis ils jouent, puis ils s'en parlent entre eux. Puis tu sais, moi aussi, j'ai hâte de voir, parce que même moi, je travaille surtout avec les plus petits, avec les 5 ans, puis j'ai vu déjà juste l'aspect COVID, parce qu'ils ont vécu beaucoup de leur enfance en COVID, juste l'aspect comme groupe, ça les a affectés. Fait que l'aspect au long terme aussi, je vais être quand même intriguée quand ils vont faire, dans une couple d'années, quand on va voir les changements concrets, mais non, on le ressent juste dans les écoles. Les enfants de 5 ans, ils me prennent mon téléphone, ils me demandent c'est quoi mon code, puis ils l'ouvrent, là. Puis, c'est fascinant, là, ils savent comment utiliser. Mmh. J'ouvre mon cellulaire, parfois j'ai des photos qu'ils ont pris eux-mêmes.
Oh, les torieux!
C'est fou, là! C'est fou à quel point qu'il a rendu quelque chose comme utiliser une fourchette, là. Ils savent comment ça marche, ils savent comment l'utiliser, puis ils sont si jeunes. Mais je pense que c'est ça, c'est plus comment bien l'utiliser. C'est que pas vu que c'est arrivé tellement rapidement un peu avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'a pas de guide non plus d'utilisation. C'est nous qui va le bâtir. Juste l'intelligence artificielle, c'est pas réglementé dans, si je me trompe pas, dans aucun pays ou presque. Je sais qu'il y a un grand débat aux États-Unis avec ça, justement, mais on n'a pas le choix de les réglementer puis d'essayer de trouver des façons pour pas que ça prenne des tournures comme justement l'affaire des pilules où y a tellement, j'en vois tellement passer là, des personnes politiques qui se font prendre leur voix, c'est rendu tellement fort là. Mm-hmm. Genre je vois des vidéos passer de est-ce que c'est un vrai chanteur ou pas, mm-hmm. est-ce que c'est une vraie chanson ou pas, puis pour vrai tu te poses la question, fait comme là j'ai fait un grand tournant mais comme
non mais il était bon ton tournant, on a tous
mais c'est ouais. Ça, mais je pense que oui. Veux pas, ça nous influence beaucoup. Encore plus la nouvelle génération. Mm-hmm. Genre, veux pas, vous en avez vu des petites filles de 13 ans, puis regarde, t'es comme, on dirait qu'ils en ont 20.
Ben, c'est vrai. Ça a vraiment fou, fait là. Moi,
on dirait qu'ils ont plus.
C'est ça, ils ont plus la période lit pour les comme cette
photo-là. Non, ça le faisait pas, là. Mais c'est vrai, puis un autre aspect aussi que des fois, je trouve ça confrontant avec le téléphone cellulaire, c'est que, tu sais, pour travailler en communication, tout c'est autour de la table, c'est que ça devient aussi un outil de travail.
Mm-hmm.
Puis j'ai vu un article la semaine passée, un post en fait sur LinkedIn la semaine passée de Florence Brouillard qui disait qu'elle a laissé son téléphone au bureau un soir, puis elle est arrivée à la maison, puis elle l'avait pas, puis que ça lui a fait un grand bien, puis je me suis questionnée face à ça, puis je me suis dit, je pense que je serais même pas capable de le faire, parce que je me dirais, mais qu'est-ce que je fais chez nous sans mon mm-hmm. téléphone?
Ben oui, puis c'est fou aussi tout le standard de comme répondre vite à ses messages.
Ouais, ben oui.
Parce que moi, je coupable, je réponds vraiment lentement à mes messages.
Et c'est bon.
Mais en même temps, ça fait du bien de déconnecter.
Ouais.
Ça fait, mettons, on dirait que tu réponds pas vite ou tu passes, ça fait une heure, t'envoies un message, puis là, l'autre personne, elle m'a pas répondu ici. Parce qu'on est tellement habitué que tout le monde soit sur ses cellulaires, ouais. Mais en même temps, legit, on devrait être comme, la personne, elle m'a pris 8 heures à me répondre, elle doit tellement passer une belle journée.
Imagine si elle t'a écrit une lettre.
C'est ça.
Ouais,
dans le temps, là, les pigeons voyageurs.
Mais tu sais, ça me fait penser, là, c'est vraiment niaiseux ce que je vais dire, mais la semaine passée, le party du DEF, ou c'était l'autre d'avant? En tout cas, il y avait un party à l'université, puis il fallait que je me rende, mais je sais pas de quelle manière c'est arrivé, mais mes clés ont resté dans ma voiture. Puis moi, j'étais en train de déneiger, puis mes clés ont... Ben, en fait, mon char a barré. Fait que là, j'étais plus capable d'ouvrir ma porte, puis mon téléphone était resté dans ma voiture. Puis là, mon premier réflexe, ça a été, attends, je vais appeler quelqu'un, mais là, j'étais comme, attends, mon téléphone est dans ma voiture. Il a fallu que j'aille comme le réflexe de penser que je pouvais appeler personne. Mais ça montre à quel point je suis accro à mon téléphone, ouais. Tu sais, en fait, que c'est mon outil, puis que si je l'ai pas avec moi, je suis comme un peu en désorganisation à qu'est-ce que je dois faire. Fait que c'est là que j'ai comme pris conscience que, OK, c'est quand même de quoi qui est essentiel à ma vie.
Ouais.
Puis aussi, en tout cas, personnellement, je fais beaucoup de la gestion de courriel dans plusieurs projets. Puis aussi, de me mettre une limite de si je réponds demain 9h, ça va faire la même chose que si je réponds aujourd'hui 20h30.
C'est vrai, 100%.
Fait que c'est de pouvoir se mettre un petit peu de recul. Fait que je pense que c'est apprendre à retravailler entre c'est mon outil de divertissement et c'est mon outil professionnel.
Exact. Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai, faut se mettre la limite. C'est un couteau à double tranchant. C'est le fun de faire un métier qui nous permet d'être connectés en direct sur l'information, mm-hmm. sur les événements, sur les nouveautés. Mais on peut tellement tomber dans le piège là, en un claquement de doigts. Fait que c'est vrai que s'imposer des limites, c'est pertinent, puis je trouve qu'on devrait ouvrir le dialogue justement pour ça. C'est normal que si je te réponds pas là, je vais te répondre mm-hmm. éventuellement, parce que d'ici là, je vais me déconnecter, je vais vivre ma vie, je vais mm-hmm. essayer de faire autre chose, mais on n'en parle pas assez, puis malheureusement, c'est tellement un piège qu'on a tous dans notre poche. Fait que
oui. C'est réjouissant de vous entendre. Non, mais je me dis, elles commencent leur vie professionnelle, puis elles ont une vision de comment elles veulent gérer leur mm-hmm. patente, puis c'est beau, tu sais. Mais tantôt, tu as parlé des créateurs de contenu, puis tu as parlé, c'est un métier. Ça, moi, j'ai dû m'adapter. Parce que, tu sais, j'ai vu apparaître ça aussi. Je trouvais ça donc belle fun, mais attends, avant de dire que c'est une job, attends, là, mm-hmm. wow, là, c'est un loisir. Mais j'ai compris que quand c'est bien fait, oui. C'est effectivement un métier, puis tu as un devoir de fournir du contenu de qualité, mm-hmm. puis si ton métier de créateur de contenu, c'est de faire la promotion de certaines marques, mais quand c'est clairement annoncé que je regarde quelque chose qui est, que c'est commandité, que je comprends que tu es en train de me parler d'une compagnie en laquelle tu crois, mais que tu annonces tes couleurs, je te suis, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est clair, net et précis. Et je trouve que ces plateformes-là, pour vous autres, ça donne une créativité extraordinaire.
Oh, c'est ouais. fou, là. Puis je vais faire un lien avec, c'est pas notre culture à nous, mais la culture française. Je sais pas si vous connaissez Squeezie. C'est mm-hmm. un YouTuber français. Puis il a sorti un documentaire, parce que lui, s'est rendu un super grand YouTuber en France. Puis il a sorti justement un documentaire qui explique tout, justement, comment il a bâti ça. Puis au travail, il y a un épisode qui est sur les médias. Excusez-moi, sur la réaction des médias traditionnels, parce que la première réaction des médias en France, à ce moment-là, ça a été de rire un peu d'eux, de dire que c'était pas un vieux métier, mais c'est ils font autant de travail parfois qu'un vrai plateau, sauf que la plateforme est différente. Mm-hmm. Enfin, c'est fou à quel point que, comme justement, lui, l'arrivée des YouTubers, ces choses-là, au début, on comprenait pas qu'est-ce qui se passait, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, justement, on en parle depuis tantôt, mais je pense pas nécessairement que c'est pour le mal, mais il faut quand même préserver quand même une mm-hmm. certaine essence, justement, pour quand on en parlait du journalisme.
Mm-hmm. Puis on voit aussi que ça impacte aussi plusieurs autres métiers. Entre autres, je pense à Sandrine qui peut-être prévoit avoir une carrière dans le niveau de la publicité, du marketing numérique. C'est de repenser aussi ses campagnes en fonction des médias sociaux. C'est plus une pancarte sur l'autoroute, c'est peut-être plus les annonces à la télévision, c'est de repenser puis de savoir bien cibler son public, entre autres. Là.
Oui, 100%. Puis c'est... Tout peut se partager tellement rapidement. Puis, mettons, si on pense à une célébrité connue, mettons, Beyoncé. Mm-hmm. Beyoncé, l'annonce de son nouvel album, là, je pense qu'en moins de 15 minutes, la planète au complet était au courant. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est comme que Corinne l'a mentionné tantôt, c'est un peu un double tranchant parce que, oui, ça se propage rapidement, mais autant que, justement, si tu fais pas bien tes recherches, mettons, au niveau publicitaire, si tu fais une publicité qui est pas recherchée ou tu fais une erreur ou quelqu'un, mettons, juste ici, si on dit quelque chose qui est d'épouvantable, rapidement, ça peut être partagé. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... faut bien rechercher. Quand on a cette responsabilité-là, je pense, en étant quelqu'un en communication, peu importe le milieu, de bien rechercher, bien s'informer.
Puis rapidement, vient aussi la cancel culture qui a eu, je pense, un impact assez là, important là, au Québec dans les derniers mm-hmm. Les derniers
c'est
temps.
Mondial aussi comme phénomène,
oui.
c'est
oui,
sûr.
Entre autres, puis je pense que peut-être plus en parler, étant dans l'œil du public, c'est une peur. Je sais que vous n'êtes pas problématique, là, mais...
Mais moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, de ce phénomène-là, je dis phénomène, c'est plus que ça, c'est la prise de parole. Ouais. C'est que ça a donné une prise de parole. À plusieurs personnes. Moi, je pense pas que c'est allé trop loin. Je pense que ce qui devait être dit a été dit. On a compris aussi que les gens parlaient sur les réseaux sociaux parce que le traditionnel, la voix traditionnelle allait pas assez vite, qu'il y avait des femmes qui avaient pas été entendues, prises au sérieux. On nous dit maintenant que dans les corps policiers, il y a des efforts. Ou est-ce que, puis il y a un changement, mais c'est ça. C'est venu par ce mouvement-là qui a donné une prise de parole. Maintenant, est-ce que nous... notre travail peut toujours être critiqué par quelqu'un, hein, Corinne? Je veux dire, notre travail peut toujours pas déranger, parce que quand tu fais un reportage, tu essaies de montrer les deux côtés. On n'est mm-hmm. pas dans l'opinion, ni l'une ni l'autre, dans notre métier. On le fait avec le plus d'éthique possible, je pense, mais on n'est pas à l'abri, à un moment donné, de quelque chose qui dérangerait. Mais on court pas après ça.
Non, on court pas après ça. Puis justement, pour faire du pouce rapidement, là, on est chanceuse de pratiquer un métier qui nous demande pas nécessairement de donner notre opinion parce que oui, c'est beau de voir qu'en 2024, on est une société qui accepte justement des podcasts, des émissions, des prises de parole d'opinion, mais ça prouve que rapidement, ce que tu dis, il peut avoir des conséquences, ouais. Ça peut être retenu contre toi. Puis je pense que ça a non seulement ouvert le dialogue, ça a prouvé qu'il y a des effets qui peuvent être efficaces avec ça, mais ça a prouvé aussi qu'il faut vraiment réfléchir puis qu'on ne peut pas tout se permettre. C'est beau, là, on a des moyens, on a des micros et tout, mais il faut quand même garder qu'on parle à un public qui ouais. reçoit notre message, qui peut le recevoir d'une façon A comme une façon Z. Mm-hmm. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Une joke de mauvais goût, c'est niaiseux, mais ça peut tellement faire de la peine à une personne comme une autre va pouvoir rire. Ouais. Puis ça
pousse la conscience à dire, OK, si je dis ça, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis prêt à faire face? Est-ce que je suis capable de tenir mon bout puis dire, non, j'avais raison de dire ça? Fait que la cancel culture, je pense que ça a ouvert la porte à 800 000 questions qu'on doit se poser quand on travaille dans l'œil du public, quand on a le moyen d'avoir un micro. Puis c'est tellement un pouvoir qu'on prend à la légère des fois, mais la chance qu'on a de pouvoir parler puis qu'il y a des gens qui nous écoutent, des fois on prend ça pour acquis, mais au final ça a des effets tellement plus grands. Fait que ça a été un choc au début. Je sais qu'il y a des gens qui étaient contre ça, des gens qui ont critiqué, mais au final, je pense que c'était un bel exercice de conscience, encore une fois.
Absolument. Puis je trouve que c'est super, vraiment, mais vraiment très intéressant, tout ce qu'on vient de parler. On s'en va sur une petite, très, très courte dernière pause publicitaire, puis on se retrouve pour notre beau mot de la fin, parce que c'est déjà presque la fin de notre émission. Je n'ai pas plus une.
Vous écoutez le show des trois flots.
Ted Normandin, ça fait plaisir.
Vous écoutez le show des trois flots.
De retour sur les ondes du 96.9 au show des Trois Flounes. L'émission tire pas mal à sa fin. On vous remercie encore éternellement d'être venu avec nous. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante pour notre première expérience radio.
Oui!
J'espère qu'on a pas
C'était une belle émission, les filles. Bravo!
Merci,
ouais,
merci beaucoup.
Ouais, merci de l'accueil.
Bref, pour conclure, on aimerait ça peut-être avoir un mot de votre part sur... un conseil pour la relève en com de la part d'Ève-Marie et Corinne, un conseil ou un petit mot d'encouragement pour les aspirants communicateurs de ce monde.
À la relève, j'ai envie de dire, venez-vous-en, on vous attend. Venez-vous-en pour les bonnes raisons, pas juste pour passer à TV. Parce que passer à la télé, ben, passe devant la caméra, ça va être fait. Viens me raconter quelque chose. Il y aura toujours des histoires à raconter, des voix à donner à des gens qui n'en ont pas. Le journalisme a sa place, le journalisme fouillé, documenté, les interactions aussi avec un beau niveau de langage, moi j'y crois. Arriver curieux, débrouillard, pas paresseux. Le métier a changé, le métier change encore, mais on a besoin de vous autres.
OK, mon Dieu, il faut que je suive ça, super, à tous les bonnes chances. C'est pas, hein? À tous les aspirants en communication, je sais qu'en ce moment, on se sent comme dans les derniers Harry Potter, quand le ministère de la magie est pris d'assaut, puis Voldemort est là, puis qui fait noir.
OK,
c'est si bien dit, Corinne. C'est ça en ce moment, je
c'est
le sais.
Vrai.
Mais en ayant les deux pieds dedans, il faut juste se dire qu'il faut s'accrocher, puis qu'il y aura toujours de l'information. Elle est toujours pertinente lorsqu'elle est bien recherchée et racontée. Puis faites le saut. Sautez. Si vous aimez pas ça, c'est pas grave. Si vous réalisez que c'est pas ce que vous cherchez, c'est pas grave. On a juste 20 ans. Les gens qui veulent être aspirants en ont peut-être encore moins. La beauté là-dedans, c'est qu'on est jeune. On a des choses à amener dans un milieu qui est traditionnel. On a une voix qui est pertinente. Puis c'est pas vrai que les jeunes, on est tout le temps sur nos cellulaires puis qu'on n'est pas débrouillard. Au contraire, on amène toujours quelque chose. Puis il y aura toujours une place pour cette... la vie des jeunes est importante. Puis je pense qu'il faut la prendre en considération. Fait que venez-vous-en. Puis on va combattre Voldemort.
Oh yeah!
Yes, voilà,
ouais. Oh, je rajoute quelque chose. C'est tellement beau ce que tu as dit. C'est pas grave si on se trompe. Parce que de toute façon, une formation en communication, bien communiquer, c'est d'être juste mieux outillé pour évoluer dans la société.
Effectivement.
Peu importe ce qu'on fait. Peu importe le métier qu'on va choisir. Mieux communiquer, ça va faire de nous des citoyens plus engagés. Puis on va être gagnants.
Mon Dieu, je suis inspirée pour les 30 prochaines années.
Ah, mais vraiment.
Souvent, ça passe vite, 30 ans.
Mais bref, on s'enligne pas mal sur la fin. Je voulais remercier, entre autres, tous les auditeurs, nos invités en studio, surtout les trois flots qui nous ont donné l'opportunité de prendre le micro ce soir. Pour rien manquer de notre activité flamboyante sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur le show des trois flots sur Instagram, Facebook, TikTok, name it. On est là partout avec la grande Sandrine qui nous...
je vous attends.
Qui nous alimente le tout. Alors, je passe le mot de la fin à la Bellerie.
Oups, il fallait que j'y aille là, fait que je vais vous le faire maintenant. En fait, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous aimez ça autant que nous. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur, un retour de communication et surtout un bon retour de relâche. Bonne fête soirée! Ouh!
Ah.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.